pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà.
Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà
non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah, vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu l'une des personnalités les plus barrées du foot, une personne qui vit ce sport avec une telle passion qu'elle en devient communicative. Vous l'avez sûrement vu sur la chaîne L'Équipe, commenter des matchs de la manière la plus vivante qui soit, ou dans L'Équipe du soir, débattre avec la même vigueur. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Yoann Riou, le célèbre journaliste du groupe L'Équipe. Vous l'entendrez dans cet épisode, Yoann Riou est aussi passionné, bavard et enjoué qu'à la télé, un vrai personnage à lui tout seul. Avec lui, on a parlé de sa passion pour son club de toujours, l'En Avant Guingamp, et de ses souvenirs au stade avec son père. On a également évoqué ses voyages en Italie et en Angleterre, deux terres de football où il s'est senti comme un poisson dans l'eau. À ce sujet, il a d'ailleurs raconté pas mal d'anecdotes bien folles sur ses deux séjours, et bien sûr, on a parlé de son métier de journaliste sans oublier ses fameux commentaires de match. Allez, trêve de blabla, Banquette épisode 44, c'est tout de suite. Salut Yoann, comment ça va ?
Bonjour Abdallah, tout va très très bien, merci de m'accueillir en tout cas.
Je suis extrêmement content de t'avoir dans Banquette, vraiment, parce que je te regarde à la télé et tout depuis pas mal d'années, et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans Banquette, donc merci beaucoup d'être venu ici. Pour parler un peu de toi, de foot et de la vie en général, en fait, tout simplement.
Et j'ai écouté cette nuit, pour préparer l'émission, quelques-unes de tes interviews. Donc, tu es vraiment, tu confesses, hein, t'arrives à bien confesser les gens, en tout cas.
merci, ça, c'est un peu le but. Alors, comme je te dis, je te regarde souvent à la télé, j'ai aussi lu pas mal de trucs en préparant l'épisode, et tu dis souvent en interview que tu vis un rêve d'enfant, que t'es comme un gosse, de pouvoir commenter, de voir des matchs de foot, et le fait que t'en as fait ton métier aussi. Du coup, je me suis demandé, il était comment, Yoann Riou, quand il était enfant? Est-ce que c'est le même qu'on voit à la télé sur la chaîne L'Équipe? Déjà, si je te dis le mot enfance, quelle est la première chose qui te vient en tête?
C'est, alors, je suis exactement le même que quand j'étais enfant, hein. D'ailleurs, je viens d'avoir 40 ans, mais je me demande même, non, j'ai pas 40 ans, en fait. J'ai vraiment 8 ans, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans. Et alors, j'ai eu une enfance merveilleuse, absolument merveilleuse. Tu sais, pleine d'amour, pleine de, comment dire, même de calme, de tranquillité pour grandir dans l'affection. Et là, t'imagines, hier soir, j'ai commenté l'En Avant de Guingamp. Donc, c'était un match entre le Paris Saint-Germain et l'En Avant de Guingamp. Et j'ai eu la chance à 40 ans de commenter le club de ma vie, le club de mon cœur.
C'était la première fois que tu commentais Guingamp?
C'était la première fois que je commentais Guingamp. Et donc, je me suis retrouvé comme quand j'avais 10 ans, comme quand j'avais 8 ans, comme quand j'allais au stade avec mon père tout jeune. Et surtout, c'est que quand j'étais petit, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et donc, ils avaient installé un but dans un champ au milieu des vaches, au milieu des moutons. Véridique. Hein. Et donc, et je me rappelle, il y avait eu un match extraordinaire de Coupe d'Europe à un moment donné entre le grand AJ Auxerre de Giroud et l'Ajax Amsterdam. Il y avait des super jours à l'Ajax, un match de Coupe d'Europe incroyable, et ça devait être des vacances, et le soir donc Auxerre allait créer un exploit sensationnel, et moi j'avais fait le match l'après-midi, tu vois, j'étais dans les champs, j'étais en short, donc à la fois je jouais et à la fois je commentais, toi je faisais les deux en même temps. Bon, alors aujourd'hui parfois on mime les actions, hein, alors je peux pas faire pareil, mais moi à la limite j'aimerais bien commenter, tu vois, moi j'adorerais faire l'émission dans un champ, tu vois, on serait 10, on referait les actions et tout. Non, c'est juste magnifique.
Et t'en as déjà parlé à la production de L'Équipe ou
pas encore. Là, on essaye petit à petit ou pas, mais c'est vrai que la chance qu'on a sur la chaîne L'Équipe, comme on n'est pas, tu vois, une chaîne aussi importante avec autant d'argent que TF1, France 2, donc on sait peut-être aussi, on est plus libre, on peut avoir plus d'idées, on peut leur apporter des idées. Voilà, c'est aussi un petit peu un journalisme en liberté, et surtout ne pas se prendre trop au sérieux. On est là pour s'amuser, parce que pour moi, la télé, c'est vraiment la bonne humeur avant tout. Des sourires, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, le soir, et donc voilà, ils ont passé une journée peut-être avec des soucis au travail, des soucis dans leur famille, des problèmes perso. Donc si on peut leur apporter, leur arracher des petits sourires, c'est ça le grand bonheur.
Bah effectivement, mais on parlera de tes commentaires de match, de la chaîne L'Équipe un peu plus tard dans l'épisode. Et pour revenir à l'enfance et au football, donc tu parlais du fait que tes grands-parents étaient agriculteurs et que tu faisais les matchs, tu les préparais en amont dans les champs.
C'est ça.
Et c'est quoi ton premier souvenir de foot? premier souvenir de foot qui te vient en tête, c'est quoi?
Alors, je suis né en 1978 et en 1984, il y a l'Euro. Et je me rappelle, alors là, c'est vraiment un souvenir incroyable et c'est fugace, mais c'est le France-Belgique à l'Euro 84 à la Beaujoire. Il faisait un temps merveilleux. Le terrain était séparé en deux, tu sais, avec l'ombre. Il y avait la lumière, il y avait l'ombre. Et je me rappelle, il y avait un coup franc extraordinaire. Ça, c'est un souvenir, tu vois. Ça, c'est un souvenir merveilleux de. Et après, il y a un autre souvenir, c'est en 1985. Donc, je suis en 78, donc j'avais 7 ans. Demi-finale de Ligue des Champions entre le grand Bordeaux de l'époque, Giresse, une équipe fantastique, contre la Juventus Turin, et en demi-finale retour de Ligue des Champions. Hein. Et je me rappelle, je joue au foot dans le jardin, et il y a la télé qui tourne dans la cuisine, dans le salon, mon père qui regarde le match, et j'entends le bruit, but pour Bordeaux. Bordeaux commençait sa remontée fantastique, Bordeaux ouvrait le score, et moi je me rappelle, il faisait un temps merveilleux, c'était le printemps, toi, le foot qu'on aime, Abdallah, hein, le printemps, le jour qui, ça y est, le jour maintenant dure plus longtemps, il fait jour jusqu'à peut-être 10h du soir, 9h du soir, et moi je sais, je quitte le jardin, je quitte pour match de foot et là je me mets devant la télé et Bordeaux ne s'est pas qualifié mais Bordeaux a gagné 2-0 et tu vois déjà la Juventus, la grande Juventus de Platini hein. Donc c'est mon souvenir de Platini ça 85, je suis jeune et là je vois un immense match de Coupe d'Europe à la télé et jamais à ce moment-là je me dis évidemment que plus tard j'allais commenter ces matchs aussi intenses, aussi fous, aussi dingos.
Ah ouais, et ta première déception, parce que forcément le foot c'est un peu une école de la vie, donc on a les premiers souvenirs, les premiers amours, et on a aussi nos premières déceptions, c'était quoi la tienne, ta première déception?
Moi j'étais fou amoureux de l'AC Milan, donc j'ai grandi vraiment avec le grand Milan, et c'est marrant parce que c'est 91 et 93 surtout, donc finale de la Ligue des Champions, Marseille-Milan, et moi j'avais le maillot du Milan AC, je portais le maillot du Milan, alors j'avais rien contre Marseille, mais sauf que...
Moi je suis pour l'OM. Hein,
ouais. Ah mais c'est ça qui est génial Abdallah, c'est que quand on est enfant, c'est la passion qui vient en nous, c'est pas quelqu'un qui peut nous dire, Johan tu dois supporter, encourager telle équipe, et moi le Milan est venu à moi, c'était un immense Milan, le Milan des Hollandais, le Milan de Sacchi, puis après de Capello, et en 93, je t'assure, le soir, j'avais le maillot magnifique du Milan AC en rouge et noir. C'était extraordinaire. Et là, je peux t'assurer, mon père supporter de Marseille, en plus, donc mon père super heureux, moi super triste. Je voyais les occasions se succéder pour le Milan avec Massaro qui ratait des occasions. Il y avait Van Basten sur le terrain. Et je peux t'assurer, j'ai passé une nuit horrible. J'ai pleuré vraiment. Hein. Et le lendemain, au collège, je me suis fait chambrer comme jamais.
Bah oui,
mais,
normal.
Mais tu vois, dans la bonne ambiance, dans la bonne atmosphère. Mais oui, j'ai pleuré. Je me rappelle... un match du Paris Saint-Germain également contre la Juventus en Coupe d'Europe, je crois que c'était une demi-finale également, et là je pense que qu'il y avait pénalty sur Weah, et là j'étais fou, j'avais eu les larmes aux yeux aussi, parce que mais c'est ça qui est génial, tu sais, quand tu grandis comme tu l'as dit si bien Abdallah, avec une passion, avec des, oui t'as raison, tu apprends la vie, parce que tu apprends souvent, on perd plus qu'on en gagne dans la vie, et le foot quand t'es supporter, ton équipe en général perd plus qu'elle gagne.
Exactement.
Et moi j'adore, et moi je suis attiré par les perdants, par les losers, mais il faut que ce soit magnifique, hein. Mais j'adore les...
C'est un peu le côté français, ça.
Ouais, non, mais moi, j'adore les fêlures, j'adore les fissures, j'adore les failles, j'adore les gens qui ont des soucis, j'adore les gens qui essayent de se battre pour résoudre des soucis. Et j'avoue que, ouais, j'ai pas vraiment une sympathie énorme pour les gagnants. En fait, ça m'intéresse pas beaucoup, en fait.
C'est énorme ce que tu viens de dire, là, sur les gagnants.
Mais oui, parce que, je l'ai toujours dit, il y a eu une interview il y a quelques années dans SoFoot de Fernando Torres. Et Fernando Torres, c'était une interview c'était bien plus qu'une interview. Il racontait sa vie, il racontait son enfance, le fait, tu vois, d'être un joueur de l'Atlético de Madrid. Et vraiment, il racontait, et je trouvais ça extraordinaire, que dans la vie, on perd plus que l'on gagne. C'est vrai, plus on grandit, on voit nos parents vieillir, plus tu grandis, plus tu vas à plus d'enterrements que de cas de mariage. Quand tes parents, tu vois tes enfants qui quittent le foyer. Parfois, tu perds ton travail, tu peux perdre ta santé, tu perds tes cheveux, tu perds. Et dans la vie, on perd plus que l'on gagne. Et c'est pour ça qu'il racontait si bien qu'à un moment donné, le foot espagnol gagnait, mais il disait, on gagnait, mais c'était miracle. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas tu gagnes dans la vie. Et j'adore cette philosophie de vie. Et d'ailleurs, on en parlait, Abdallah, avant les billets d'émission. Dans la vie, de toute façon, ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'on va vivre des grands moments et on va vivre des moments très tristes. On va vivre de très haut et de très bas. Et donc, c'est pour ça que je me dis toujours, quand il y a de très bas, allez, Johan, c'est pas grave, parce que forcément, la vie, elle a deux bras comme nous, elle te donne. Deux bras, un pour donner et un pour recevoir. Donc, et parfois même, elle te reprend la vie. Donc, il faut juste l'accepter.
C'est pour ça que je disais que justement, le foot, c'était une super école de vie. parce que en tant que supporter que nous sommes, toi et moi, oui. Voilà, on apprend la défaite et des fois c'est très douloureux. Et disons, on apprend aussi à passer outre la défaite, à se dire bon, il y aura des jours meilleurs, et des moments meilleurs, même si ça peut durer très très longtemps. Moi, en tant que supporter de l'OM, ça a été très difficile, surtout en grandissant en banlieue parisienne, c'était très compliqué par moments. Mais après, j'ai eu mes moments de gloire et voilà. Donc ça apprend la patience aussi. Et
toi, Abdallah, c'est quoi ton meilleur souvenir de l'OM?
Waouh.
Là, t'as 28 ans.
J'ai 28 ans, donc du coup, 93, moi, j'étais trop jeune pour connaître. Et mon meilleur souvenir de l'OM, je pense que ça a commencé vraiment en 2004. L'épopée européenne de Drogba. Je me rappelle de cette demi-finale incroyable, le geste qu'il fait sur le premier
Newcastle.
But. Contre Newcastle, j'étais en transe. Et la finale, justement, ça a été terrible pour moi parce que je savais qu'on n'était peut-être pas à la hauteur, on n'avait pas une équipe exceptionnelle, mais le fait de voir Barthez se faire exclure comme ça dans le match.
Et là, c'est comment? T'es dans ton salon, t'es avec tes parents?
Je suis dans mon salon avec mon cousin, et en fait, je me rappelle à la fin du match, je regarde le match en entier, et j'étais avec mon cousin, il dit, je vais regarder la cérémonie. Je fais non, on regarde pas, je zappe sur Colombo, donc voilà. Mais non, c'est 2004, c'est la Corogne en intertoto, alors c'est une compétition un peu bidon, mais en termes d'émotion, c'était incroyable. 2006, les épopées en Coupe de France, 2007, le titre de champion de France en 2010, l'Inter en 2012, enfin, et là maintenant.
Mais toi, par exemple, tu préfères, je sais que t'adores la musique, toi, tu préfères un énorme match. Alors, imaginons, là, jeudi, il y a l'Olympique de Marseille qui joue, match extraordinaire de demi-finale retour, mais imagine, il y aurait un concert de rap, parce que t'adores le rap à Paris. Ouais. Tu fais quoi? Tu vas au concert de rap ou tu regardes le match de Marseille?
Alors, si c'est Jay-Z qui est en concert de rap.
Vas au concert?
Non, je prends l'OM.
Ah, d'accord. Mais c'est beau d'avoir deux passions comme ça, et puis parfois, choisir, c'est renoncer. Donc,
Exactement. Pour être sélectionneur, c'est ça. Et du coup, toujours pour revenir, pour rester un peu dans l'enfance, il y a un truc qu'on voit souvent chez toi, c'est que t'as... Bon, là, tu les as pas. T'as plein de fiches à la télé quand t'es dans l'équipe du soir ou quand tu commentes les matchs. Et je me demande si, quand t'étais petit, t'étais aussi pareil quand tu préparais tes exposés. Et je t'imagine bien, genre, préparer le bac avec des classeurs entiers.
Mais bordélique, totalement bordélique.
Des classeurs pour chaque matière.
Mais c'était pareil, j'achetais des bouquins, je me rappelle, j'achetais des bouquins, évidemment, tu disais 4 pages sur 400 et tout. Mais alors j'ai eu la chance vraiment, collège, lycée, d'avoir vraiment je me rappelle, il y avait des classes toujours de bonne humeur, tu sais, on levait la main, on participait vachement, donc j'ai vraiment eu une enfance, une adolescence, à Guingamp, notamment les 3 années au lycée, mais il y avait une joie de vivre dans la classe, tu vois, on se répondait l'un l'autre, ça faisait écho. Et pour te dire, tu vois, là maintenant je commande des matchs de foot, mais moi je me rappelle quand j'étais enfant. Donc j'ai une sœur jumelle et le matin tu vois il y avait le bus qui attendait pour aller à l'école et moi le matin je me rappelle mais vraiment tu vois il était 8h moins le quart et sous la douche mais moi je commentais des matchs, je m'inventais des matchs, c'était toujours il y avait souvent des sélections étrangères, il y avait du Brésil, de l'Argentine, de l'équipe de France et franchement mais ma sœur elle tapait à la porte, elle disait mais Johan encore une fois mais zut on va rater le bus, arrête tes bêtises, mais non lâche la salle de bain et vraiment tu vois j'ai toujours été baigné là-dessus et je me rappelle quand il y avait le Tour de France, je notais tout. Tu vois je découpais les papiers de West France, je notais tu vois les classements montagne, donc j'avais même des calepins, j'avais des cahiers de comme aujourd'hui et ça devait être aussi bordélique. Ouais.
Incroyable. Et comment tes parents ils voyaient ton amour pour le football quand tu étais jeune? Est-ce qu'ils comprenaient? Est-ce qu'ils trouvaient que c'était trop? Comment ils se positionnaient par rapport à ça?
Non, au contraire, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui ont accompagné le mouvement. Je me rappelle ma première année où je joue à l'En Avant de Guingamp. Donc j'étais en troisième, j'étais en moins de 15 ans. Et donc normalement Guingamp, quand tu joues à Guingamp, t'allais collège, lycée. Il y avait un collège, lycée qui était affilié au club. Tu vois, il y avait un accord, il y avait un partenariat. Et moi, je me rappelle pour la première année en troisième, en tout cas, j'étais resté à l'Ogivi de la Mer, à une trentaine de bornes. Et ma mère m'emmenait à l'entraînement. Tu vois, donc elle me cherchait au collège vers 4h30. Et donc on allait à l'entraînement. Attendait dans la voiture à l'entraînement et puis après elle me ramenait. Mine de rien, il y avait quand même une trentaine, une quarantaine de bornes, trois fois par semaine. Et donc j'ai toujours été, comment dire, accompagné. Le mouvement était là. Mais jamais mes parents, tu vois, m'ont dit non, Johan, tu regardes pas le match ce soir. C'était vraiment tout était. Et l'un de mes souvenirs merveilleux, c'est 1986. J'ai 7 ans et c'est un match de Coupe du Monde extraordinaire, quart de finale France-Brésil.
Quart de finale. Moi qui suis né après, j'ai eu la chance de le revoir parce qu'on s'est passé à la télé, même je pense qu'il est disponible sur internet.
C'est ça.
C'est quand même un des plus beaux matchs de foot que j'ai pu voir.
Bah Abdallah, évidemment, fantastique et tout. Et là, il y a la seconde mi-temps, il y a un pénalty pour le Brésil, alors qu'il y a un partout. On souffre. Et là, je sais que je vois, j'ai l'image, ma mère qui s'en va, elle va pas voir ça dans le salon, quoi. Elle quitte le salon et tout, alors que c'est pas une folle de foot. Hein. Et moi, je me rappelle, maman, c'est bon, il a raté le péno et tout, il y a encore de l'espoir. Donc, ça a été vraiment bercé par le sport. Et je me rappelle. À l'Odivy de la Mer, vraiment, il y avait un centre de voile qui était à 200 mètres, vraiment 200 mètres de la maison. Il y avait une plage à 200 mètres. Et moi, normalement, l'été, j'aurais dû aller au centre de voile, j'aurais dû apprendre à naviguer, devenir marin, quoi, voilier, navigateur. Et en fait, non, il y avait le Tour de France l'été. Donc, pendant trois semaines, j'étais enfermé, je t'assure. Il y avait la plage à 200 mètres, il y avait le port à 200 mètres. Et moi, j'étais là, dans mon lit, à me faire des scénarios de fou, à attendre une attaque de Pedro Delgado, une attaque de Laurent Fignon. Non, non, mais c'est un truc, c'est exceptionnel.
Et le JDD a dressé ton portrait en décembre dernier. Et dans cet article, j'ai relevé une phrase qui m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est une phrase de ton papa. Mmh. Il a dit « Je redécouvre mon fils, j'apprends à le connaître à la télé. Quand il prononce le mot « amour », ça me fait bizarre. À la maison, on ne se parlait pas beaucoup. » Justement, je me suis demandé quel rapport tu avais avec ton père, parce que tu nous as dit que tu vivais dans une... T'as eu une enfance très heureuse et tout. Et je sais que c'est ton père qui t'a emmené voir les matchs de l'année avant Guingamp. Vous avez quelle relation tous les deux ?
Ah, magnifique. Mais voilà, on est de la Bretagne Nord. Donc Bretagne Nord, tu vois, des gens moi je dirais vrais, tu vois, on se tape pas la bise en deux secondes, on ne devient pas copain en deux secondes. Il faut vraiment un rapport de confiance, il faut que le temps s'installe. Et mon père, en plus, marin pêcheur. Donc les marins pêcheurs, en plus, en Bretagne Nord, c'est des gens vraiment qui c'est le labeur, c'est le travail. Ils partaient souvent, évidemment, ils étaient très peu à la maison puisque c'était vraiment le travail. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont construit lui et son frère ont construit un bateau plus grand. Et je me rappelle, il y avait une réunion de famille en disant comment on va appeler le bateau. Moi, j'avais 12-13 ans. Et en fait, ils ont décidé d'appeler le bateau en breton Nozadé, ce qui veut dire nuit et jour. Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, on va devoir travailler nuit et jour pour ce bateau. On va devoir aller parce que finalement, ils partaient beaucoup plus loin en mer d'Irlande et tout. Ils partaient 10 jours en mer. Et donc, tu te rends compte, j'ai été élevé dans ça. C'est-à-dire que le bateau s'appelait nuit et jour. C'est-à-dire, on travaille nuit et jour. Donc, moi, je voyais peu mes parents. J'aidais mes parents. Parfois, j'allais, on allait livrer la marchandise dans les ports à Lorient. Je me rappelle, je passais des nuits entières dans le camion avec ma grand-mère. On allait livrer la marchandise au marché de Lorient. Je me rappelle notamment le port de Lorient qui est roman, on allait livrer des restaurants, donc c'était vraiment, tu vois, j'ai été élevé dans ça, et donc c'est avec mon père, tu vois, c'est peu de mots, alors évidemment il y a un immense amour, mais en Bretagne
c'était
Nord,
pas verbalisé, quoi.
Ouais, dans ce coin-là, vraiment, on se parle, il y a pas besoin de mots, on le voit au visage, on le voit et ce qui est magnifique, c'est que parfois quand il partait, donc surtout l'été, il partait longtemps, et moi je sais plus quel système c'était, mais je lui envoyais des messages. Je me rappelle d'un PSG, Metz PSG, où il y avait un joueur assis qui avait marqué contre le PSG, et moi je lui écrivais. Alors je sais plus si c'était par Minitel, si c'était par Telex, et moi je lui racontais les matchs. T'imagines, lui était en mer à pêcher des crabes et des tourteau. Et moi, il y avait autre chose à penser, à mon avis, qu'au match. Il fallait qu'il remplisse la cale, hein. Il fallait qu'il remplisse le poisson, des tonnes de poissons, de crustacés. Et moi, j'étais en train de lui envoyer les messages. Maintenant, c'est beau, et aujourd'hui encore, il y a cette même fierté, évidemment. Tu vois, cette année, je lui ai offert l'abonnement à l'En avant de Guingamp, il est abonné. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de transmissions. Et d'ailleurs, c'est marrant, pour préparer le match d'hier entre PSG et Guingamp, j'ai appelé Étienne Didot, joueur de l'En avant de Guingamp, qui est né à Paimpol comme moi, père aussi fou amoureux de foot. Et il me racontait, voilà, que lui, quand il joue à l'En avant, au Roudourou, il est fier parce que, il est surtout ému parce qu'il sait que son papa aussi est abonné à l'En avant de Guingamp. Il sait que pendant qu'il joue, son père est en tribune, et que quand il était petit, son père était aussi en tribune avec lui en avant. Donc c'est le fameux mot que moi j'adore le plus au monde, la transmission.
Justement, tu parles de transmission, donc tu es un grand supporter de Guingamp, tu l'as jamais caché, et j'ai lu que c'était justement grâce à ton papa qui t'emmenait au stade.
Exactement.
Comment c'était la découverte, comment s'est passée la transmission justement de ce supporterisme, si je peux dire, exprimer ainsi. Ouais.
Alors, c'était le samedi vers 18h. Il faut savoir que Guingamp jouait alors en D2. En D2, il y avait deux groupes, et donc Guingamp jouait contre Saint-Dizier, contre Abbeville, contre Dunkerque. C'était pas, disons, la folie d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, Marseille, Nice, c'est tout. Et en général, vers 17h, 18h, il me disait, mais Johan, ça te dit pas d'aller à Guingamp au match ce soir ? Mais tu vois, c'était pas des grands matchs. Moi, je me rappelle vraiment Saint-Dizier, Abbeville, Beauvais, Mulhouse. Là, c'était le bonheur. Donc, on prenait la voiture, environ une demi-heure, 40 minutes de route. On écoutait la musique. Encore une fois, très peu de mots, parce qu'il n'y a pas besoin. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de le verbaliser. Et là, on arrivait au stade, stade Yves Jagin. C'était pas encore le Roudourou, petit stade, mais une ambiance, vraiment un petit stade. Et donc, mon père me laissait au grillage, en tribune latérale, et lui il se mettait, c'était des tribunes debout à l'époque, et lui il se mettait vraiment à 5-6 mètres derrière, tu vois. Et moi j'étais au grillage, je me rappelle qui caressaient le grillage, et il y avait la pelouse qui était là, mais à 1 mètre, hein, vraiment à 1 mètre. Et donc il y avait, alors en plus en Bretagne, tu vois, il y avait souvent de la pluie, il y avait la pelouse, il y avait l'odeur de la pelouse, l'odeur des saucisses frites, je me rappelle, tu vois, les veloutes de pas de cigarettes, mais des joueurs, tu sais, avec la respiration. Mais là c'est un autre monde, quoi, c'était incroyable. Et d'ailleurs, en préparant un reportage sur Guingamp, 2-3 ans, j'avais appelé Michel Denisot, parce que Michel Denisot avait commenté en 85, Canal Plus, à soir, pour la première fois, avait mis en direct, en prime time, un match de D2, et c'était Guingamp contre, à l'époque, un club qu'on pensait qu'il allait devenir grand, le Racing Club de Paris, ou le Racing Paris, avec des stars à l'époque, et franchement, et t'imagines, et Michel Denisot, il m'avait dit que c'était un de ses meilleurs souvenirs de sa carrière. Alors Michel Denisot, pourtant, il a fait les plus grandes choses du monde, les plus grands reportages dans le foot, dans le cinéma, et il commentait avec Charles Bietri, et il m'avait dit vraiment que ce match-là, c'est un de ses meilleurs souvenirs parce que c'était authentique.
Justement, j'allais t'en parler, est-ce que c'est pas ça le football authentique ? Ce que tu as pu vivre à Guingamp, ce qu'on peut voir aussi sur d'autres pelouses en France et même dans d'autres pays, genre des matchs un peu, c'est pas hyper coté, mais il y a une ambiance un peu authentique où tout le monde, il y a une vraie communion entre le public, les joueurs.
Mais Abdallah, en fait, l'authentique, c'est dès que c'est sincère, c'est authentique. Dès que c'est, tu vois, la Marseille qui bat Marseille là jeudi soir contre Salzbourg, Marseille contre Leipzig, moi j'étais devant la télé, mais c'est authentique, c'est sincère, c'est l'amour des gens. Et là, tu peux pas contrôler ça, c'est le peuple marseillais. Là, est amoureux de cet OM-là, est amoureux de cette équipe-là, est amoureux de ces joueurs-là. Alors, c'est pas les meilleurs joueurs du monde, hein, mais Mitroglou, t'as envie de l'aimer, Sakai, t'as envie de l'aimer. Et donc, dès qu'il y a de l'amour, dès qu'il y a de la volonté des gars, des joueurs qui mouillent le maillot, bah, c'est authentique. Ça peut être authentique à Guingamp, à Paimpol, je crois que tu vis en ce moment à Aubervilliers, oui. À Anfield. Et le foot est multiple, et c'est ça qui est génial.
Et pour rester sur l'Olympique avant de Guingamp, est-ce que quand on est supporter de l'Olympique avant de Guingamp, on déteste ceux de Saint-Brieuc? Parce que Saint-Brieuc, c'était un autre club pro dans les années 90. Et c'est aussi l'autre club des Côtes d'Armor. Est-ce qu'il y a une rivalité entre Guingampé et les gens de Saint-Brieuc?
Non, mais il y a un moment donné, dans les années 90, Saint-Brieuc est arrivé en D2 aussi, comme Guingamp. Et je crois que il y a eu une saison où Saint-Brieuc était en D2 et Guingamp en National, en troisième division. Mais finalement... Oui, il y aurait dû avoir une rivalité, mais comme ça a duré très peu de temps, donc il y a pas eu le temps finalement de se détester. Et là, cette année, Saint-Brieuc a fait un bon parcours en Coupe de France. Donc, en revanche, la vraie réalité, c'est Rennes quand même.
Ah ouais, donc il y a une rivalité.
Donc, abordé sur Twitter, j'aimais bien chambrer les Rennais un tout petit peu, tu sais, de bon esprit. Mais là, j'ai arrêté parce que non, mais c'est vrai, moi, je suis pas sur Twitter, tu vois, pour chambrer, pour taquiner, je l'ai fait un petit peu. Mais c'est vrai que la vraie concurrence, il y a une vraie concurrence, c'est entre Guingamp et Rennes. Et c'est vrai que cette année, quand Guingamp l'a emporté la dernière seconde à Rennes avec Bakoto, c'était absolument fantastique. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, j'étais allé dans le parkage également à Rennes. Guingamp l'avait emporté. J'étais avec mon papa. J'avais emmené mon papa avec moi. Guingamp l'avait emporté. Moi, quand j'étais étudiant à Rennes, j'allais au match à Rennes. Hein. En plus, ma copine, elle adorait les joueurs du Stade Rennais. Donc, à la fin du match, t'imagines, on allait recueillir les autographes des joueurs du Stade Rennais. Je me rappelle, il y avait Pierre-Yves André, il devait y avoir Paul Le Guen comme coach. Et j'allais même en tribune derrière le but à Rennes. Voilà, je n'ai pas du tout la haine du Stade Rennais. J'aimerais bien que le Stade Rennais même aille en Coupe d'Europe. Et c'est vrai que moi j'ai connu l'ancienne route de l'Orient quand c'était beaucoup plus vieux, et j'adorais ça. Encore une fois, moi je préfère souvent, là, comme je suis nostalgique et mélancolique, oui, je préférais le Stade Rennais d'il y a 20 ans, tu sais, quand une année il montait, une année il descendait, qu'est-ce qui est rouge et noir et qui prend l'ascenseur, c'était le Stade Rennais, quoi. Et moi j'adorais ce Stade Rennais qui était très humain, avec Michel Le Millinaire. Là, ça me paraît, tu vois, limite un peu trop grand, un peu trop gros, c'est pas trop ma cam, parce que c'est limite trop grand, quoi.
Tu trouves que c'est trop grand, le Stade Rennais?
Ah bah là, ils ont tout, hein. Ils ont un stade vraiment, ils ont un stade formidable, ils ont un stade qui est très très grand, un stade qui est très bien fait, je préférais l'authenticité du Stade Rennais des années 80-90, où je sais que c'était vraiment un club très humain, il y avait des histoires humaines, il y avait des joueurs qui se prenaient pas la tête, et je me rappelle quand j'étais petit, vraiment de derby à Ijagain entre Guingamp et le Stade Rennais, je me rappelle d'un joueur du Stade Rennais, Van den Bogart, un néerlandais si je me trompe pas, magnifique les derbys Guingamp-Rennes.
Et en plus, vous leur avez fait très mal à Rennes en Coupe de France.
C'est ça.
C'est pas gentil de votre part. Hein. 2 finales, vous prenez les 2, même pas un titre pour les Rennais, les pauvres. Là, c'est la capitale de la Bretagne, c'est pas gentil, ça.
Tu as raison. 2 moments immenses, évidemment, puisque...
Bah, comment tu les as vécues, ces 2 finales de Coupe de France remportées par Guingamp?
Alors, 2009, j'étais correspondant de l'équipe en Italie. Et je sais que le dimanche soir, il y avait un très, très, très grand match en Italie. Mais il devait y avoir de la Juve, il devait y avoir du... Je crois que c'était un Juve-Milan. Mais quand même, j'ai pris l'avion. Donc, j'ai assisté au match le dimanche soir de la Juve et du Milan. Mais le samedi, j'ai fait un aller-retour. J'avais fait une nuit blanche, d'ailleurs. Et donc, j'ai assisté au Stade de France à la finale. C'était absolument extraordinaire. Émotion folle. J'avais pas dormi de la nuit. C'était incroyable. Et en 2014, encore plus touchant et émouvant, deux, trois semaines avant, mon père avait été très, très gravement opéré pour un gros, gros problème de santé. Il avait été opéré pendant plusieurs heures. Et donc, là, j'avais pris mon billet pourtant pour la finale, mais j'étais pas allé à la finale. Et je l'avais regardé à côté de lui, dans le salon, dans la maison. Et donc, j'ai magnifique. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est qu'en 97, donc c'est la première finale de Coupe de France de Guingamp, la dernière finale qui avait eu lieu au Parc des Princes, j'y étais, Guingamp contre Nice. Souvenir extraordinaire. Alors oui, on avait perdu au tir au but, mais moi je retiens pas ça, je retiens pas la défaite, je retiens le bonheur. Et je me rappelle, le match avait duré tellement longtemps avec la prolongation et les tirs au but. Moi, tu vois, j'avais 19 ans, je rêvais, j'étais au Parc des Princes, c'était tellement extraordinaire, je restais et tout. Et quand je suis arrivé sur le port de Saint-Cloud au métro, ça je me rappellerai toute ma vie, en fait, quelqu'un nous avait dit bah non, c'est trop tard, le métro est fermé. Et donc on avait dû aller à pied, il y avait un nombre incalculable de Guingampais, et donc on avait fait le voyage à pied entre la porte de Saint-Cloud et Montparnasse pour récupérer le train. Et je me rappelle cette nuit, et franchement, je t'assure, j'étais même pas trop déçu parce que voilà, il y a un moment donné, Guingamp, 6900 habitants qui est en finale de quelque chose, oui, on perd, et alors quoi. Moi franchement, et c'est pour ça que certains m'ont dit hier, mais t'as pas été déçu que après avoir mené 2-0, Guingamp s'est fait rejoindre. Mais je dis, mais non, mais pourquoi toujours retenir le côté négatif? Moi, j'avoue que j'ai choisi de retenir le côté positif toujours dans la vie.
Et de ces trois finales, c'est laquelle que tu retiens? Celle de 87 perdue, celle de 2009 où vous étiez en Ligue 2, ou celle de 2014?
C'est génial parce que 97, c'est peut-être c'était même ma première fois à Paris. Tu vois, tu découvres le Parc des Princes, tu découvres. J'avais 19 ans, j'avais joué à Guingamp en plus quelques années auparavant, incroyable. Après 2009, là j'étais au stade de nouveau, mais là c'était le Stade de France, c'était 80 000 Bretons au stade, une victoire incroyable à la fin. Et 2014, avec mon papa qui venait d'être très 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 gravement opéré. Donc ces trois moments aussi magiques les uns que les autres, trois moments différents, trois lieux différents, incroyable.
Et comment tu qualifierais ta relation avec l'en avant Guingamp?
Alors magnifique, 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 parce qu'en fait ça ne s'en va pas. J'ai 40 ans, et ben hier j'ai eu la chance de commenter ce match, mais il y a la même émotion qu'à l'époque, ça ne s'en va pas. Peut-être qu'à un moment donné, quand j'étais en Italie, j'ai vécu 7 ans en Italie, c'est sûr qu'à un moment donné j'allais beaucoup, je revenais quand même assez peu, donc je suivais un peu moins le club, j'y allais un peu moins, j'avais moins le temps de m'en occuper, mais c'est magnifique. Et là, en préparant le match, j'ai appelé le président Bertrand Desplat, j'ai appelé Étienne Didot, j'ai appelé Nicolas Benezet, et en plus mon rapport est incroyable puisque le Eric Blaik qui est l'adjoint de Gourvennec. Il a été l'adjoint de Gourvennec à Guingamp, à Bordeaux. Il a été l'adjoint également de Guy Lacombe au Paris Saint-Germain, à Sochaux. Moi, c'était un de mes coachs en moins de 15 ans à Guingamp. Tu vois, Eric Blaik, qui aujourd'hui quand même est un coach très réputé, un adjoint très réputé. Et moi, je joue en moins de 15 ans B. Et lui était le coach des moins de 15 ans A. Et puis, je me rappelle d'un match, notamment, où j'avais quand même joué avec l'équipe des moins de 15 ans A. Et je me rappelle vraiment de son discours avant le match, dans le vestiaire. Et tu vois, je me rappelle... Et là aujourd'hui, quand on s'appelle, quand je lui demande un petit renseignement ou comment ça va Eric, ou par exemple cette année j'ai commenté Bordeaux, donc je l'appelais avant les matchs, avant qu'il se fasse licencier. Et vraiment, t'imagines, je parlais avec lui alors que ça a été un de mes coachs. Donc c'est ça qui est magnifique. Ronald Thomas, qui est l'entraîneur des gardiens aujourd'hui à Guingamp, formidable entraîneur des gardiens à Guingamp, qui s'occupe très bien du suédois Johnson. Eh bien, c'était son père boucher, était le boucher de mes grands-parents, donc il venait à la ferme souvent. Tu vois, c'est un petit village. Il faut vraiment bien se dire que Guingamp, c'est quatre rues. C'est vive l'agriculture, ce sont les agriculteurs, ce sont les paysans, ce sont les tracteurs, tout le monde se connaît à Guingamp, vraiment. Mais disons, en revanche je suis pas pote avec des joueurs, je suis pas ami avec des joueurs, je fais pas ami avec le président, enfin après j'ai un rapport quand même avec du recul, puisque tu vois, je ne vis pas dans le club au quotidien, et en revanche quand je vais au match à Roudourou, je tiens à payer mon billet. Je crois qu'une seule fois, une ou deux fois, je suis allé en tribune de presse, mais en général je tiens à donner quelques euros, ma mère qui me dit
c'est vraiment important pour toi.
Ouais, parce qu'en fait, regarde, on a 7900 habitants à Guingamp. S'il n'y avait pas le foot à Guingamp, qu'est-ce qu'il y aurait? C'est la vérité, hein. C'est une chance folle que l'on a, dans le foot aujourd'hui incroyable, dans le foot où il y a plein d'argent, où il y a plein de grandes structures. Bah, nous, c'est un club qui fait, c'est une ville de 6900 habitants. C'est une ville qui perd des habitants. C'est une ville où, comme il y a une crise économique, c'est une ville qui a plein de problèmes, où il y a des difficultés de l'emploi. Et Guingamp est connu dans le monde entier, est connu dans l'Europe, est connu sur la carte grâce à son club de foot.
Et comment t'expliques qu'un club d'une ville aussi petite se maintiennent au haut niveau professionnel comme ça? Et j'ai l'impression aussi, c'est la deuxième partie de ma question, qu'il y a une vraie sympathie pour ce club. Je connais pas de gens qui détestent Guingamp. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Comment tu l'expliques ça?
Justement, Abdallah, c'est, pour moi, c'est inexplicable et j'espère que le fluide ne s'en ira pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un microclimat. C'est du fluide, tu vois, on les donne dans Dragon Ball Z, tu sais, là, quand ils donnent la boule de feu, là. Parce qu'en fait, c'est décennie après décennie, c'est le fluide qui reste. T'imagines, on a quand même eu Drogba, on a eu Malouda, on a eu Jean-Pierre Papin, on a eu Andrei Zarmak, qui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, dans les années 80, il était à Auxerre, c'était une star, il a fait la Coupe du Monde, il a été un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, il est allé en demi-finale de la Coupe du Monde avec la Pologne. Il arrive à Guingamp. Andrei Zarmak était une star absolue à l'époque, hein. Zarmak, il arrive à Guingamp. T'imagines comment même on a Guingamp a pu avoir Zarmak. Il a fait une saison extraordinaire d'ailleurs. Guingamp a failli monter en Ligue 1 à ce moment-là. Et surtout, c'est qu'il y a de la sympathie parce qu'on crée souvent des exploits. Et comme on est les petits, tu vois, en 2014, on bat le PSG. En 2016, on bat le PSG. Il y a eu l'épopée en Coupe d'Europe. Oui, oui. Moi, je suis allé voir mon club en 16e de finale de, on a, tu rends compte, en 16e de finale de Ligue Europa, on est allé à, le Guingamp a joué contre le Dynamo Kiev. Tu vois, j'ai pu, grâce à ce club, je voyage. C'est la meilleure agence de voyage du monde. Je suis allé à Kiev voir mon club jouer. Ça a été deux jours extraordinaires à Kiev. Mais j'espère surtout que Guingamp ne se prendra pas au sérieux, que Guingamp tombera pas trop dans le marketing, que ne pas tomber dans la com, de rester comme on est. Et là, aujourd'hui, par exemple, si tu vas à Guingamp, tu vas voir à l'entraînement, mais donc les joueurs se changent au stade et ils traversent une voie ferrée, ils font 150 mètres et donc ils arrivent sur un stade d'entraînement. Et donc entre le stade et le petit centre d'entraînement, le petit terrain d'entraînement, tu peux discuter avec les joueurs, tu peux leur serrer la main, il y a une proximité. Et moi, la peur que j'ai, c'est pas de se voir trop grand, vraiment, qu'on reste comme ça. On est 6900 habitants. Et moi, on devrait jamais être là, en fait. On devrait être en DH, on devrait être en DSR, on devrait être en CFA, en CFA 2. Et j'ai vraiment peur, Abdallah, parce que je me dis, en fait, mais ça va s'arrêter un jour quand même. C'est pas possible qu'on continue les miracles comme ça. Et moi, j'ai très, 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 très peur de la chute.
Est-ce que Guingamp n'est pas en train de vivre sa meilleure période en ce moment?
Et non, parce que rappelle-toi, en 2003, je crois, avec Drogba et Malouda, on finit septième en battant à la fin tous les gros. On va gagner à Lyon, on va gagner à Nantes. On fait un championnat incroyable, on finit septième. Et je pense que s'il y avait eu deux trois journées de plus, peut-être on allait en Champions League. Dans les années 80, on était en D2 certes, mais il y avait un jeu incroyable avec Raymond Queiroz-Auré, ancien joueur de l'équipe de France. Il y avait un jeu incroyable, il y avait un jeu léché. Après, dans les années 90, on est en National, on monte en D2, on monte en D1, et après il y a l'épopée en Coupe d'Europe. Et Guingamp, en 96, avait reçu l'Inter Milan. T'imagines, donc Guingamp déjà en 96 avait joué à San Siro, à Giuseppe Meazza contre l'Inter Milan, t'imagines. Et donc à Guingamp, il y a eu Djorkaeff, il y a eu Zamorano, il y a eu Zanetti, il y a eu Maurizio Gans, et le match en plus avait été commenté par, t'imagines, tribune de presse du Roudourou sur Canal+, et t'avais Michel Platini, Thierry Gilardi, il y a même l'équipe de France qui a joué à Guingamp aussi, puisque il y a eu un match entre l'équipe de France et les îles Féroé. Mais en fait, quand je ferme les yeux, je me dis, mais quand ça va s'arrêter? C'est, tu vois, c'est l'impression de, on dort, on est en plein rêve et c'est une nuit, mais c'est une nuit qui est très, très lumineuse depuis 3-4 décennies.
Et on a beaucoup parlé de Guingamp, mais je voulais maintenant parler de tes voyages. Tu as eu la chance de beaucoup voyager durant ta carrière en Italie, en Angleterre, et on va commencer par l'Italie. Donc, je crois que c'est en 2005, tu pars un peu sur un coup de tête chez nos voisins italiens. C'était à l'époque en prévision des Jeux Olympiques d'hiver à Turin, en 2006. Parce que le quotidien de l'équipe voulait un correspondant là-bas. Et quand on parle, tu dis oui direct, alors que la personne n'avait même pas fini sa phrase.
Exactement. Tu savais
pas pourquoi c'était. Et je trouvais ça fou parce qu'en plus, je crois que tu parlais même pas un mot d'italien.
Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, donc on est mi-janvier 2005. Et à ce moment-là, je savais pas, je l'ai su après. Et là, on me dit, Johan, voilà, dans un an, il y a les Jeux Olympiques à Turin. Et donc, tu vas suivre la Serie A. Au départ, c'était prévu surtout la Juventus. Et donc, ce serait pour vivre à Turin pendant un an et demi. Mais t'imagines, moi, j'avais quoi, 25 ans peut-être à ce moment-là. Mais on peut pas refuser. Enfin, alors après, j'avais su que d'autres personnes avaient refusé et pour des raisons totalement valables et compréhensibles. Après, n'avais pas pu dire oui. Moi, on m'a demandé ça, t'imagines. Et je me rappellerai toute ma vie. Fin janvier 2005, donc je avec ma voiture. Alors l'Italie, je ne connaissais pas du tout, j'étais jamais allé en Italie. Alors j'adorais certes Milan AC pendant mon adolescence, mais je connaissais pas un mot d'italien, je connaissais rien, même pas la culture, enfin j'avais jamais eu l'occasion d'y aller en fait. Et le truc c'est que là, je me rappelle avec ma voiture, avec ma Clio, je passe le tunnel de Fréjus, et donc j'arrive en Italie. C'était un dimanche après-midi parce qu'il fallait que je sois le dimanche soir pour démarrer les recherches d'appartements le lundi, rencontrer un petit peu des gens de la Juve, du comité olympique. Et là, t'imagines, et là je tombe en plein du multiplex des matchs de Serie A le dimanche à 15h. Et là, les voix tout de suite, donc je comprends rien évidemment. Et là, je vois le Capharnaüm, l'amour du foot, les commentateurs, tu vois, entre eux qui se... allez, on va à Florence maintenant, on va à Rome. Et je sens le bouillonnement, je sens la folie, je sens l'émotion, je sens un jacuzzi. Et je me rappellerai...
Est-ce qu'on peut sentir l'émotion, la passion du foot dans un pays à travers les commentateurs? Parce que j'ai l'impression qu'en Italie, en Espagne, au Brésil, dans les pays sud-américains, on sent la passion du foot À la manière dont les commentateurs commentent le match, justement.
Ah là, c'est une émotion folle, hein. Vraiment, je t'assure. Mon premier souvenir d'Italie, c'est avec ma Clio. Je passe du Delphine Fréjus. Et là, donc, après, il y a environ, 150 bornes pour arriver jusqu'à Turin. Et je t'assure, tout de suite, j'ai adoré. Tout de suite, je me suis dit, je vais aimer ce pays, je vais adorer ce pays. Alors, au début, c'est extraordinaire quand t'apprends une langue, parce que je parlais pas du tout, je parlais pas un mot d'italien. Et le premier soir, donc, j'ai la télé à l'hôtel. Et là, je vois, il y avait des visions de foot de dimanche soir, évidemment, en Italie, qui font des cartons absolus d'audience. Sorte de téléfoot, local ou de CFC. C'est local. Et là, je me dis, mais ils vont à 300 000 à l'heure, je ne comprenais. Enfin, évidemment que je ne comprenais rien, mais moi, mon cerveau, tu vois, je me suis dit, mais ils vont à 300 000 à l'heure, mais je ne comprendrai jamais l'italien, j'arriverai jamais à comprendre l'italien et tout. Et en fait, c'est que, tu vois, que quand tu apprends une nouvelle langue, c'est tout simplement le temps que le cerveau se mette à, tu vois, à la vitesse de comment il parle. Et moi, je me suis dit, mais il parle comme des fadas, mais c'est incroyable, j'arriverai jamais et tout.
Alors et que en toi fait, aussi, tu parles assez vite.
Oui, et alors que moi, je parle vite, t'as raison, Abdallah. Et en fait, le truc extraordinaire, c'est au fil du temps, bah, je me suis dit, non, Johan, ils vont pas vite. C'est juste que toi, ton cerveau, le temps que, il apprenne l'italien, que ça va venir et tout. Mais j'avais adoré ça. Et surtout, c'est que à ce moment-là, il y avait une émission, je sais toujours pas si elle existe, le procès du lundi, il processo di Biscardi. Et donc, t'avais plusieurs, une sorte un petit peu de l'équipe du soir, entre guillemets, mais avec des gens encore plus fous, encore plus fadas, encore plus amoureux, encore plus déjantés. Et là, je t'assure, j'étais dans mon lit le lundi soir et moi, je kiffais, mais j'étais pissé de rire. Parce que je me suis dit, mais c'est incroyable comment ils parlent, ils s'engueulent entre eux, le mec du Milan est contre le mec de l'Inter, mais c'était une folie. Et moi, je dirais un mot, c'est ébullition. C'est, un bouillonnement. Et très rapidement, j'ai eu la chance incroyable de en 2005, t'imagines, l'un de mes premiers matchs, huitième de finale retour de Champions League, donc la Juve qui reçoit le Real de Figo, le Real de Raoul, de Zidane. Et là, Stadio delle Alpi, donc, qui avait bercé mon adolescence, Stadio delle Alpi, je suis là pour l'équipe, je dois faire les notes de la Juventus. T'imagines, moi, faire les notes. Alors moi, évidemment, 10 sur 10 à tout le monde. Et j'avais noté, je crois que j'avais été sévère avec Del Piro, me semble-t-il. Et donc, t'imagines, j'étais là et je devais noter les joueurs de la Juventus. Mais je suis qui pour noter les joueurs de la Juventus? Non, je suis un baltringue, moi. Enfin, et je me rappelle de la difficulté de mettre des notes mais je suis qui, en fait, pour mettre des notes? Je suis qui pour noter ces génies sur le terrain? Match extraordinaire, prolongation, la Juve qui passe à la Yeita. Et après, un de mes reportages les plus émouvants, c'est que quart de finale, et donc le tirage au sort donne et offre un incroyable clin d'œil de l'histoire et du destin. Le tirage au sort donne donc pour ce quart de finale Liverpool contre la Juventus. Et donc c'était 20 ans, on était en 2005, 20 ans après le terrifiant, terrible drame du Wesel. Pour nos plus jeunes auditeurs, c'est donc une finale de C1 qui avait eu lieu à Bruxelles entre la Juventus et Liverpool. Il y a eu 39 morts, 39 supporters de la Juve. Un drame terrifiant et incommensurable qui a beaucoup changé d'ailleurs, qui a beaucoup fait changer le football après. Et là, 20 ans plus tard, les deux équipes ne s'étaient jamais retrouvées. Et donc, j'avais fait un reportage où j'étais allé. Donc, j'avais rejoint à l'aéroport à Londres des supporters de la Juve, qui eux étaient déjà venus qui avaient fait le voyage quelques heures auparavant de l'Italie. Et j'avais fait le voyage entre Londres et Liverpool et Anfield avec des supporters de la Juve, avec un groupe de supporters qui s'était créé peu de temps après le drame du Wesel, en hommage aux victimes du Wesel. Et dans ce bus, il y avait des gens vraiment qui avaient été touchés dans leur chair au Wesel, qui avaient perdu des membres, des amis au Wesel. Et donc j'ai fait ce voyage et t'imagines le silence de cathédrale dans ce car. Je me rappelle vraiment, il y avait une ambiance, il n'y avait pas un mot, les gens étaient d'une dignité incroyable. Et ensuite, j'ai assisté au match à Anfield, à ce quart de finale aller de C1 à Anfield, dans le parcage des supporters de la Juventus. Et je me rappelais.
C'était comment, justement, en termes d'ambiance, que Anfield, c'est une institution du foot. C'était comment l'ambiance entre
C'était extraordinaire, parce que là, c'était la résilience, c'était la réconciliation, c'était le respect, c'était le peuple de Liverpool qui s'excusait. Le peuple d'Anfield qui s'excusait auprès des supporters de la Juventus. Il y avait une immense banderole, un immense tifo qui était écrit donc amicizia en italien, donc amitié en italien. Il y avait beaucoup de dignité, il y avait eu aucun problème de sécurité ce soir-là en tout cas. Et je me rappelle, je dictais le, parce que j'avais pas mon ordinateur et moi je ne pouvais pas, dans le parcage en plein milieu d'Anfield au milieu des supporters, je ne pouvais pas écrire mon papier. Et donc j'écrivais le papier avec un collègue, Lionel Langoumou, à Paris, et on a fait le papier à quatre mains. Je lui racontais mes émotions, la journée. Ça, c'est vraiment un reportage très 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 fort. T'imagines, j'étais arrivé en Italie depuis quelques semaines, et là, j'ai vu la puissance du foot, tu vois, la puissance d'un tirage au sort qui, 20 ans plus tard, te remet deux équipes qui avaient été frappées par ce drame, par ce malheur. Et là, tu t'assistes en direct à une sorte de réconciliation, même si ces 39 morts, évidemment, seront toujours des fantômes et il y aura toujours quelque chose, évidemment, entre Liverpool et la Juve. J'ai vécu ça et après, j'ai vécu un autre reportage vraiment qui m'avait beaucoup ému. Dans les années 90, il y avait eu un drame également à mort, un supporter du Genoa qui avait été tué par un Milanista, par un supporter du Milan, juste avant un match de Serie A entre le Genoa et le Milan. Et de nombreuses années plus tard, j'étais en Italie et pour la première fois, les supporters du Milan étaient autorisés à revenir à Gênes, à Marassi, pour un match du Genoa. Parce qu'avant, il y avait tellement des peurs de représailles, de guérillas entre des supporters du Genoa. Et là, pour préparer le... Et là, j'avais fait un très long reportage pour le journal L'Équipe, quasiment une page. Et j'avais appelé le papa de ce supporter du Genoa qui avait été donc tué de nombreuses années auparavant. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce qu'on peut se rencontrer avant ce match, des retrouvailles entre les supporters du Milan et du Genoa, à Marassi, le stade de Gênes. Et là, vraiment, le papa, d'une émotion folle, d'une émotion incroyable et d'une dignité également, lui qui avait tant souffert et qui souffrait tant encore. Et il m'avait donné rendez-vous devant le stade. Et il est arrivé avec la petite camionnette que conduisait son fils. En fait, c'était la voiture de la petite camionnette de son fils. Et lui, il venait parce que suite à la mort de son fils, il avait décidé de rouler uniquement avec cette petite camionnette pour se sentir à la place de son fils, pour sentir son fils encore près de lui. Et il s'était garé, je crois, quasiment à l'endroit où son fils avait été tué, à quelques mètres du stade. Et là, vraiment, une émotion folle, une émotion indescriptible. Et moi, je peux t'assurer, Abdallah, il y a des reportages où j'avais les larmes aux yeux. Hein. J'écoutais les gens et j'avais envie de pleurer, ou j'avais même des larmes qui coulaient. Et une autre fois également, encore un autre drame en Italie, derby sicilien entre Catane et Palerme. Et là, un carabinier, donc l'équivalent d'un gendarme, d'un membre des forces de l'ordre, se fait pareil tuer lors d'affrontements entre supporters, enfin un bordel terrible. Et là, le journal donc m'envoie en Sicile pour raconter les jours suivants qu'est-ce qui se passait, parce que la Serie A, le foot italien s'était totalement arrêté pour réfléchir à ce drame, pour savoir comment c'était possible que ce drame soit intervenu. Et là, j'avais assisté donc aux obsèques de ce carabinier, de ce gendarme, de ce carabinier, et il y avait un monde fou sur la place de Catane à l'église, et j'avais pas pu entrer dans l'église parce qu'il y avait un monde fou, et donc j'avais assisté vraiment à la cérémonie et juste à côté de l'église sur le parvis, un monde fou, et j'ai vraiment encore en moi résonnent les mots de sa fille qui était vraiment très très jeune et qui racontait avec une dignité incroyable, avec un amour pour son père. Elle racontait sa souffrance, mais elle racontait aussi le bonheur d'avoir eu ce papa là et là t'imagines, après tu dois rentrer à l'hôtel, tu mets dans ta chambre, et là t'es dans le silence, et là tu dois écrire le papier pour le journal, et là si t'es pas sensible, c'est pas possible quoi. Donc là il faut essayer de laisser libre cours à sa sensibilité, à son humanité, et de raconter. Et après j'étais retourné quelques semaines plus tard, une bonne semaine en Sicile, pour raconter le foot sicilien, en disant voilà, il y a un mois il y a un carabinier qui a été buté, qui a été tué lors d'affrontements entre supporters, et là j'avais dû raconter, j'avais fait le tour de la Sicile, j'avais vu un petit peu le foot sicilien dans toute sa diversité. J'étais allé dans les montagnes, à la campagne, à Palerme, à Messine. Et vraiment un moment très émouvant et un moment incroyable.
Et j'ai l'impression que dans le football italien, le foot et l'émotion vont vraiment de pair tous les deux. Et toujours dans le registre de l'émotion, il y a cette fameuse Coupe du Monde 2006 en Allemagne, où l'Italie est sacrée championne du monde face à la France. Et toi, est-ce que tu étais en Italie à ce moment-là, au moment de la finale?
Oui. Et alors, incroyable, j'ai vécu la journée entière de la finale dans la famille de Gattuso en Sicile, en Calabre.
Comment tu t'es retrouvé avec la famille de Gattuso,
oui,
déjà?
Oui, alors déjà, accueil exceptionnel, accueil fantastique, accueil formidable, des gens très, très humains. Donc à midi, je déjeune avec des oncles et des tantes, je ne sais plus exactement, mais des oncles et des tantes de la famille Gattuso. Je passe après-midi avec eux, mais d'une gentillesse ahurissante. Et le soir, donc j'ai assisté à ce match. Sur écran géant, sur une plage appartenant à la famille Gattuso ou proche de la famille Gattuso. Il y avait tous ses amis qui étaient là, toute sa famille. Et moment énorme. Et je me rappelle, il y avait une tante à lui qui était une gentillesse folle. Et au moment d'envoyer le papier, je devais envoyer le papier. Impossible d'envoyer le papier puisque tous les Italiens étaient sortis dans la rue. En plus, c'était au fin fond de Calabre. Les réseaux à ce moment-là, tu sais, téléphoniques, c'était pas comme aujourd'hui, surtout en Italie. Et j'arrivais pas. J'étais en train de taper sur mon bouton pour envoyer le papier à Paris au journal pour raconter ma journée avec la famille à Touzeau, le papier n'arrivait pas, j'arrivais pas à envoyer le papier, problème technique, et là j'ai dû appeler les sténos à Paris, une sténo à Paris adorable qui a 23h50 à sauver le coup. Immense souvenir, et l'un de mes plus grands bonheurs vraiment, c'est quelques années après, 10 ans plus tard, puisque la finale c'est 2006, et pour l'Euro 2016, j'avais réussi à convaincre Rino Gattuso de rejoindre entre guillemets l'équipe pour devenir consultant pendant l'Euro. Et donc pendant l'Euro 2016, pendant un mois, j'ai eu la chance d'appeler, d'avoir 7 ou 8 fois Rino Gattuso au téléphone pour des chroniques, pour des papiers. Il me parlait de l'équipe d'Italie, mais il parlait d'autres choses également. Il avait été phénoménal, il avait été adorable, il avait été super gentil. Et Rino Gattuso, ouais, très très belle rencontre de ma vie de journaliste. Et t'imagines la chance que j'ai eue, moi, Abdallah, en tant qu'amoureux du Milan AC dans mon enfance et toujours aujourd'hui. Après, j'avais un formidable rapport avec le service de presse du Milan AC, et ça m'a permis d'avoir des interviews avec Ronaldinho. Incroyable interview de Ronaldinho, super gentil. Avec Gattuso, avec Arrigo Sacchi, avec
Paolo Maldini aussi.
Avec Paolo Maldini, Pirlo.
Raconte-nous cette interview avec Paolo Maldini, qui est un joueur emblématique du Milan AC. Comment ça s'est fait, cette rencontre ?
Alors, en 2000, donc il venait d'arrêter sa carrière. Il avait arrêté sa carrière, mais depuis quelques mois. Et en 2009, tirage au sort de la Ligue des Champions. Et là, pareil encore, les boules chaudes, les boules froides, les boules. J'adore ce tirage au sort là. Le destin donne en fait Auxerre dans la poule du Milan. Et donc, en préparant le match, je vois que le premier match européen de Paolo Maldini aux années 80, au milieu des années 80, c'était contre Auxerre. Et moi, je me suis dit, mais ce serait extraordinaire d'avoir Maldini. Mais moi, tu sais, je suis un enfant, donc Maldini, mais c'est pas possible d'avoir Maldini. Maldini, il parle extrêmement peu. Maldini, il est très discret. Maldini, donc, avait arrêté sa carrière peu de temps auparavant. C'était 2009 ou 2010, hein. Non, ça sera 2010, excuse-moi. 2010, ouais. Il avait arrêté sa carrière en 2009, si je me trompe pas. Je suis un petit peu paumé dans les dates, 2009. Et là, on est en 2010, c'est ça, on est en 2010. Donc, il a arrêté sa carrière depuis environ un peu plus d'un an.
C'était le fameux groupe d'Auxerre avec le Real et l'Ajax.
Voilà. Et là, j'appelle, je crois, des amis journalistes italiens. Déjà, les amis journalistes italiens extraordinaires. Hein. Ils me filaient des numéros de téléphone, ils me donnaient les numéros de téléphone des plus grands dirigeants. J'ai été extraordinairement aidé par ces journalistes en Italie. Et là, quelqu'un me donne le numéro de Maldini. Mais il me dit, tu sais, il parle peu, Paolo. Maintenant, il est un petit peu hors circuit. Et je t'assure, hein, je l'appelle. Et je crois que la deuxième ou troisième fois, hein, mais très rapidement, il me répond. Et là, tu imagines, c'est Paolo Maldini au téléphone. Et là, il me dit, ouais, c'est super, il n'y a aucun souci, vous venez tel jour, vous venez chez moi, voici mon adresse. Donc j'habitais Milan à ce moment-là, en plus, donc en plus, il habitait pas loin de chez moi. Et donc, et là, je rencontre un mec, mais d'une gentillesse, d'une générosité, incroyable. Et je ne sais pas si c'est de cause à effet, mais en tout cas, c'est une interview qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, qui avait eu beaucoup d'écho. Et j'ai été embauché, j'ai eu mon CDI à l'équipe, deux mois après, je crois, novembre 2010. Et j'ai été embauché en janvier-février 2011.
Avant, t'étais pigiste, c'est ça ?
Avant, j'étais pigiste pendant 10 ans, ouais, entre janvier 2001 et janvier 2011, 10 ans. Et je pense quand même, parce que l'interview avait fait tellement de bruit, et puis c'était l'interview vraiment où il avait été formidable, Maldini, qu'on l'avait fait paraître en deux parties. Et voilà. Et là, Maldini, t'imagines la gentillesse. Après, je l'avais rappelé, et je me rappelle, je lui avais offert, j'étais tellement heureux, et je lui avais envoyé un SMS, je lui ai dit, voilà, monsieur Maldini, j'ai été embauché, je pense, grâce à vous. Et je crois que je lui ai offert une bouteille magnifique, je crois, de, pas de vodka, mais un alcool, mais tu vois, une bouteille magnifique. Ouais. J'avais dépensé une tonne d'argent pour cette bouteille magnifique. Et grand moment. Et également, j'ai eu Pirlo, j'ai eu, bon, après Capello, je l'ai eu plusieurs fois, j'ai eu plusieurs joueurs du Milan. Robinho, des moments Zeidorf, Ancelotti, et t'imagines un petit peu d'avoir la chance de parler avec ces joueurs-là. Et moi, je dis toujours, tous ces joueurs-là que j'ai pu interviewer, disons les plus grands, j'avais eu Ibrahimovic quand il était à l'Inter, Del Piro à la Juventus, je t'assure, quand ils décident de parler, parce qu'ils parlent quand même assez rarement, mais quand ils parlent, ils sont bons. Et là, t'as juste à être là, tu tends l'oreille, t'écoutes bien, tu mets bien ton dictaphone, regardes bien qu'il y a bien des bonnes piles dans le dictaphone, et là, les mecs, ils déroulent. Hein. Et là, ils sont très très bons, ils te confient beaucoup de choses. Del Piro a été formidable. Arrigo Sacchi, je ne te raconte pas comment il parle du foot.
C'était quoi ta meilleure interview en Italie?
Mais en fait, dès que t'avais ces jours-là de ce calibre-là, quand il disait oui, Buffon par exemple, Buffon, je l'ai eu en 2006, Buffon, après la Coupe du Monde, donc je rencontre Buffon au centre d'entraînement de la Juve à Vinovo, je le rencontre très longuement, c'était pour l'équipe magazine, et à ce moment-là, il y avait encore peut-être la possibilité qu'il soit Ballon d'Or. On était un ou deux mois de Ballon d'Or, et là, formidable. Et là, un Buffon, mais qui se livre, et là, c'est pas, tu vois, c'est pas de la langue de bois, c'est pas un petit péteux qui est là, qui me fait non, qui fait son capricieux. Non, il regarde pas sa montre. Et il m'avait raconté, Buffon, qu'il avait eu une dépression, une grosse dépression, alors que c'était déjà une star, hein, en 2001, 2002. Excusez-moi encore, je me rappelle plus la date exacte, ça devait être 2001, 2002, 2003. Il avait une dépression, il m'avait raconté cette date extraordinaire. Quand il était au plus mal, il y avait une exposition à Turin, une exposition du peintre Marc Chagall. Et il m'avait raconté, alors j'ai plus les mots exacts, hein, j'ai pas regardé les archives la nuit hier, mais il me racontait que ça lui, à un moment donné, il adorait tellement, ça lui faisait tellement de bien ces toiles de Marc Chagall, même qu'un jour il était allé 2-3 fois d'affilée, tu vois, il regardait l'exposition, il repartait chez lui et puis il revenait aussitôt et il me racontait comment, parce que Marc Chagall lui faisait du bien, comme quoi l'art lui avait un petit peu apaisé l'âme, avait été un baume. Et t'imagines quand t'as un joueur de foot, une star comme ça qui te raconte ça, voilà. Et là, là tu te dis ouais, bah c'est fantastique des journalistes, parce que t'écoutes une star qui te raconte, qui est pas là pour te raconter la langue de bois, qui est pas là pour faire du pipeau, qui te raconte vraiment le plus profond de son âme. Et j'ai eu la chance aussi en Italie que les sportifs, les dirigeants ont un énorme respect de la presse. C'est vraiment quelque chose, la presse écrite encore. Et donc j'ai eu de la chance aussi d'être là à ce moment-là où les joueurs se confiaient, n'hésitaient pas à se raconter.
Finalement, tu passes 7 ans en Italie. Bon, l'Italie, c'est pas que le foot, c'est aussi plein d'autres choses. C'est la cuisine, c'est la culture, c'est l'histoire. Qu'est-ce que tu retiens principalement de ton séjour là-bas, de tes 7 années passées à vivre en Italie?
Ah, je suis devenu totalement fou amoureux d'Italie. Il y a un mot en Italie qui s'appelle casino. Casino, ça veut dire le bordel, le casino. Mais c'est un bordel merveilleux, c'est un bordel magnifique. Les gens sont incroyables. Et moi, tu te rends compte, j'arrive en Italie. Je ne parle pas un mot d'italien. Je n'ai pas un numéro de téléphone. On est à la grande époque du Milan AC, de la Juventus. C'est absolument incroyable. Et là, tu te rends compte, je tombe sur des journalistes italiens qui ont vraiment été avec moi incroyables. Et qui m'ont aidé, qui m'ont introduit dans des clubs, qui m'ont offert la possibilité d'entrer dans ces clubs en me donnant des numéros de téléphone, en me donnant des bons conseils. Et t'imagines un jour, une anecdote incroyable, puisqu'en plus ce journaliste est malheureusement décédé, un jour en 2008, le journal me demande un gros portrait de Roberto Mancini. C'est un 8e de finale de C1 entre l'Inter Milan et Liverpool. Il y a toujours Liverpool dans mon histoire aussi. Et là, Roberto Mancini, que j'adorais dans mon enfance, c'était la Sampdoria de Gênes, extraordinaire joueur, la finale de C1 92. La Sampdoria qui perd à Wembley. Et là, on me dit, Johan, voilà, il nous faut un gros portrait, une page entière. Là, c'est un gros portrait, une page entière de Roberto Mancini. Et là, je contacte l'Inter Milan. Je dis, voilà, monsieur, le chef de presse de l'Inter Milan, en disant, est-ce que je peux rencontrer Roberto Mancini? Parce que c'est très, très important. C'est pour un portrait d'une page entière. Donc là, il faut que je l'aie absolument. Je relance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et on me le donne pas. T'imagines, on me le donne pas. Et là, on a une semaine du papier. Donc c'est un désastre absolu. Je suis dans une merde. Là, excusez-moi, je suis très vulgaire et très grossier. Mais là, je suis pas bien. Là, je suis en larmes. Je me dis, mais comment je vais faire? Alors, j'avais eu des gens de sa famille. J'avais eu des gens, hein. J'avais des gens qu'il avait rencontrés. Mais là, si t'as pas un portrait aussi important, t'as pas Roberto Mancini, c'est la catastrophe, quoi. Et là, je t'assure, une semaine avant le papier, par le plus grand des hasards, je déjeune, avec Franco Rossi, un journaliste italien qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et il me dit, alors Johan, comment ça va en ce moment? Bah, je dis, je prépare un gros portrait de Roberto Mancini. Et je lui dis, malheureusement, l'Inter ne veut pas me filer Mancini. Et là, il me dit, quoi, Johan, c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas possible. Et là, je t'assure, devant, au restaurant, à midi, un déjeuner, devant moi, il appelle Mancini. Il dit, oui, Roberto, est-ce que tu vas te déranger? C'est Franco. Voilà, je suis à côté d'un petit jeune journaliste français. Il est pas bien, il est en dépression. L'Inter ne veut pas que tu lui parles. Tu peux pas l'aider? Et là, je t'assure. Et là, Roberto Mancini me dit, mais bien sûr, aucun problème, aucun souci et tout. Et là, il me passe Mancini et il me dit, bon, bah, vous pouvez m'appeler 2-3 jours plus tard, quoi. Tel jour, vous m'appelez, je vous répondrai. Et t'imagines? Et là, donc, à l'heure dite, le jour J, j'ai eu Roberto Mancini. Et là, une très, très belle histoire est née avec lui, puisque depuis, c'était la première fois, c'était en 2008, depuis, j'ai interviewé Mancini au moins 7, 8 ou 9 fois. Un vrai rapport s'est installé. Après, je suis allé à Manchester City quand il était vraiment, il était champion. Il était champion d'ailleurs en 2012, il est champion à la dernière seconde avec Manchester City. Et là, je vais le rencontrer avec un collègue du journal, Jérôme Casadieu. Et là, on va à Manchester City. Et là, je le rencontre. On fait une double page dans l'équipe où il nous raconte un petit peu Manchester City, c'est quoi, son avenir. Après, je l'avais rencontré de nouveau à Paris. Après, je l'ai eu d'autres fois au téléphone. Mec extraordinaire, un de mes héros de jeunesse, un de mes héros d'enfance, un de mes héros du foot d'autrefois. Et t'imagines, s'il n'y a pas ce journaliste italien Franco Rossi de la télé qui, par une gentillesse exquise, incroyable, généreuse, me me donne le numéro, le contact de Mancini, appelle Mancini devant moi pour lui dire Roberto, s'il te plaît, parle à Johan Rioux, il est adorable, tu verras et tout. Il est dans la merde, il est dans le pétrin, il faut que tu le parles. Et tu rencontres, on est 2008, et depuis, je l'ai interviewé vraiment 8-9 fois, et même parce que moi, quand quelqu'un me fait un cadeau comme ça, j'ai un respect infini pour lui. Hein. Et il y avait une finale de la Cup en 2013 entre Manchester City et Wigan à Wembley. Et là, je t'assure, j'y suis allé pour le plaisir, mais je suis allé au stade. J'étais au stade parce que je voulais encourager. C'était pas autant encourager Manchester City, c'était encourager Roberto Mancini. Et d'ailleurs, c'est terrible puisqu'il a perdu contre Wigan et il s'est fait virer dans la foulée. Donc, c'était son dernier match. Tu vois, comme quoi, parfois, la générosité de quelqu'un, quand tu te comportes bien avec quelqu'un, eh bien, et pour moi, c'est ça l'Italie. C'est ça l'Italie. C'est un journaliste italien qui me fait un cadeau. C'est une immense star, Roberto Mancini, qui dit OK. Et depuis, on est en contact. Là, ça fait, allez, 6 mois peut-être que je l'ai pas appelé, que je l'ai pas interviewé. En plus, là, maintenant, il est quasiment favori, pour devenir sélectionneur de l'Italie. Je croise les doigts. J'espère qu'il le sera. Et en tout cas, ça, c'est vraiment une formidable histoire.
Donc, l'Italie, un formidable passage, une formidable expérience pour toi. Et l'autre voyage qui a, je pense, marqué ta vie, c'est ton année sabbatique en Angleterre. Donc, j'ai envie qu'on en parle. Donc, tu es parti 6 mois là-bas.
C'est ça.
Un peu sur un coup de tête aussi, j'ai l'impression.
Totalement.
C'était quoi l'élément déclencheur? À quel moment tu t'es dit, bon, là, j'arrête tout, je me barre en Angleterre pendant 6 mois?
Et là, c'est novembre, c'est décembre, là, c'est Noël. Noël, fin 2014, je crois. Oui, fin 2014. Et là, je regarde tout simplement, c'est Noël, je suis tranquille à la maison en Bretagne, et je vois un reportage, un documentaire sur des gens qui ont changé de vie, et j'entends le mot, je t'assure, c'est un déclic, j'entends le mot congé sabbatique. J'avais jamais entendu cette expression, enfin, j'avais entendu, mais je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et là, et c'est un reportage, je crois, sur France 5, une de ces chaînes-là extraordinaires, et je vois un documentaire sur des gens qui ont changé leur vie du jour au lendemain et tout. Et là, je me suis dit, Johan, c'est absolument ce qu'il te faut, là. Et là, je vais tout de suite sur Internet, sur Google, je tape congé sabbatique. Parce que je sais quoi exactement, quoi. Donc, j'apprends que t'as le droit de partir d'une entreprise, tu n'es plus payé, mais t'es sûr de retrouver ton boulot. Et là, je regarde, et c'était, je vois que c'est entre 6 mois et 1 an. Je me suis dit, bon, 1 an, j'ai pas assez d'argent pour partir 1 an. Et donc, finalement, je pars 7. Et là, je me rappelle tout de suite, 4 jours plus tard, je vais voir mon chef à France Foot et je lui dis, voilà, je suis désolé, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre France Foot, je suis très heureux. Mais là, j'ai une idée. Moi, je suis un peu un breton, un peu olé olé. Quand j'ai des envies, j'ai des envies. Et là, je me suis dit, je vais partir. Et donc, finalement, je pars en septembre 2015. Et je voulais absolument partir à Newcastle. J'avais hésité à un moment donné, c'était l'Argentine. Tu imagines, il y avait le choix entre l'Argentine, Buenos Aires ou Newcastle. Évidemment, je vais à Newcastle. Et Newcastle, c'est tout ce que j'aime. C'est le nord de l'Angleterre, c'est la générosité des gens. Et j'étais tombé amoureux de Newcastle en allant en reportage faire des interviews de Loïc Rémy et de Rémy Cabella en 2014. Et en allant, pourtant, quand j'étais allé faire ces deux interviews, c'était quelques heures. Hein, je crois que j'avais même pas dormi à Newcastle, mais j'avais adoré ce gris, j'avais adoré ce ciel gris, j'avais adoré ces briques, j'avais adoré St James Park. Et les deux interviews avaient été merveilleuses grâce à Cabella et Henri et Loïc Rémy, pardon. Et j'avais adoré ce peuple, tu sais, un amour, un coup de foudre, un coup d'électricité. Et je me suis dit, mais Johan, il faut absolument que tu ailles vivre là-bas un jour. Et donc, je décide de partir en congé sabbatique en septembre 2015. Je m'en vais. Et là, t'imagines, donc je m'inscris dans une école privée où il y avait des élèves du monde entier qui étaient là. J'étais en classe avec des gens du Qatar, avec un Brésilien extraordinaire, avec des Italiens. Il y avait des Italiens aussi, il y avait des Chinois, il y avait Sud-Coréens, Japonais, un truc incroyable. Et je logeais chez une dame qui avait 60 ans.
Pardon, pour apprendre l'anglais, c'est ça?
Ouais, au départ, c'est ça. Au départ, je voulais vraiment prendre des cours d'anglais à n'en plus finir. Et puis après, tu vois, je me suis dit, j'ai quitté un carcan, c'est pas pour retrouver un autre carcan. Et donc, j'allais en cours, évidemment, mais je voulais surtout vivre l'aventure à 1000%. Et c'était surtout, c'est que je vivais dans une famille, chez une dame, 60 ans, 61 ans, qui avait un super boulot et qui était vraiment l'anglaise typique, tu sais, plein dynamique, qui allait danser avec ses copines, qui avait un appétit de vivre incroyable et qui habite à 200 mètres du stade. Hein. Je voyais de ma chambre. Je voyais St James Park, l'un des plus beaux stades en Europe. Et t'imagines, quand j'avais les jours de repos, parfois, elle m'emmenait avec ses copines, on allait danser et tout, là, dans des sortes de salles des fêtes très ouvrières de Newcastle. Une femme admirable, avec du sang écossais. Elle m'avait invité avec son frère, son fils extraordinaire. Et là, t'imagines, j'ai pu vivre au cœur d'une famille anglaise, avec une dame incroyable. Là, c'est là que je me suis dit, tu vois, Johan, il faut profiter de la vie, il faut être dynamique. Un matin, elle me dit, Johan, bon, allez, Johan, pour ton régime, là, pour ton sport et tout. Elle m'avait inscrit, elle était venue, allez, Johan, maintenant, on va à la salle de sport, tu vas pas en cours d'anglais aujourd'hui. Viens, je t'emmène à la salle de sport. Elle m'emmenait visiter les coins merveilleux de l'Angleterre du Nord, parfois des dimanches matins avant que j'aille des matchs. Et surtout aussi, et là, j'ai décidé, je me suis ruiné, j'ai plus un sou à la banque. Hein. J'étais parti avec un niveau là, et là, je suis en bas, j'ai plus rien. Mais, et donc, tous les week-ends, j'allais voir des matchs de foot, et donc, j'ai pu voir l'avant aventure de Leicester, puisque c'est l'année où Leicester a été champion, 2015-2016. Et je suis allé voir Leicester jouer. Tu rencontres la chance incroyable. Je suis allé voir Leicester notamment.
T'es là au bon moment, ouais.
Ouais. Encore une fois, j'ai une sorte un petit peu de belle étoile, de bonne étoile. Alors, j'ai eu des problèmes dans ma vie, hein, plein d'ailleurs, mais je regarde toujours les bons côtés. Et je me rappelle d'un match extraordinaire de Leicester qui va gagner à Manchester City. Match extraordinaire, Mahrez qui marque. Je suis là. Tu rencontres, c'est un moment important de l'histoire, quand même, du foot anglais. Après, j'étais allé voir aussi un match, Leicester-Newcastle, je crois, ouais. Il me semble que c'était Leicester-Newcastle. J'étais allé, t'imagines, il y avait la Coupe du Monde de rugby aussi à ce moment-là. Incroyable. Donc, j'avais pu aller à Cardiff, là, invité par une Emmanuel Varon qui bosse pour la Ligue de rugby. Et là, il m'avait invité. Pendant mon congé sabbatique, j'avais pu assister à Cardiff à un match entre l'Irlande et la France. Et là, Cardiff, extraordinaire. Le Millennium Stadium, extraordinaire. Des gens avec du champagne dans le stade et tout. Et ça a été vraiment 7 mois fantastiques. Alors, mon niveau d'anglais, c'est pas beaucoup amélioré, mais des rencontres, une tonne de rencontres. Maintenant, je connais quand même mieux ce football-là. Des stades à n'en plus finir. J'avais dû faire, 12 ou 13 stades. Et je tenais à y aller vraiment en tant que supporter. Donc, j'ai vraiment peut-être dû à la fin, quand j'avais plus un rond, je crois, je m'étais de nouveau accrédité en passant par le journal. Mais je suis allé à Aston Villa, je suis allé à Liverpool, je suis allé à Goodison Park également pour un match d'Everton. Je suis allé à West Ham, où je me suis fait agresser d'ailleurs par un hooligan. Ouais, je me suis fait agresser à West Ham après un match, tout à fait.
Comment ça s'est fait?
J'étais allé voir un match de West Ham parce que Dimitri Payet, il flambait. C'était la saison 2015-2016.
Avant l'Euro.
Voilà, il flambait. Je me suis dit, il faut quand même que à West Ham, donc ça ne change rien à ce que je pense. Un stade merveilleux, le stade de West Ham qui a été maintenant démoli, mais c'était un stade merveilleux, une arène incroyable. J'avais adoré la soirée. Et après, je devais être en direct, en duplex pour l'équipe du soir, pour parler de Payet, le match de Payet. Johan, raconte-nous le match de Payet. Alors, est-ce que le gars a cru que je le filmais ou pas, parce que j'étais avec mon téléphone portable, tu sais, pour passer en direct, le journal m'avait instauré un système dans mon téléphone pour passer en direct à la télé, voilà, par un système. Et alors, est-ce qu'il a cru que je le filmais ou pas? Alors, c'était pas du tout. Mais j'avais déjà vu avant 4-5 supporters qui se chauffaient entre eux et tout. Et là, je t'assure, je vais être à l'antenne dans 30 secondes. Et là, il y a un mec qui me décroche un coup. Mais, j'ai eu hyper mal. Après, il a essayé de voler mon portable et je me rappelle que je me suis débattu et tout.
C'était la première fois que tu te fais agresser.
Ouais, première fois. Vraiment à deux pas. Alors après, je savais très bien qu'au West Ham, c'est comme les supporters qui sont durs. Tu vois, il faisait hyper sombre, un petit peu un guet-apens, quoi, une petite rue. Et là, tout de suite, des gens m'ont dit, monsieur, vous voulez témoigner, puisqu'il y avait des caméras, il y avait des caméras partout. Et moi, j'étais tellement sonné, mes lunettes étaient totalement détraquées. Donc, j'ai vécu ça aussi, j'ai vécu ce côté aussi là du foot anglais. Et je me rappelle vraiment de l'agression et de la douleur incroyable de ce coup reçu à la tempe. Il était vraiment devenu de côté, mes lunettes de traviole, je vois mes lunettes qui tombent et je me vois me débattre. Et finalement, j'avais réussi à récupérer mon portable, mais à un moment, je vois pas le mal de ça. Je me dis, voilà, je m'en suis sorti. Finalement, j'ai pas témoigné parce que je me suis dit, voilà, j'avais un train à prendre quelques heures plus tard pour revenir à Newcastle. Mais je peux te dire que te faire agresser comme ça, ça m'a quand même très très choqué.
Bah, j'imagine bien, mais le fait de partir à Newcastle et de découvrir ce foot anglais, est-ce que c'est pas aussi retrouver cette authenticité que tu avais à Guingamp et d'être dans une ville ouvrière comme Newcastle, le nord de l'Angleterre.
Totalement.
C'est le coup de foot, ça a été là, tu as retrouvé cette authenticité, cette sincérité justement.
Ah bah, quand je suis allé la première fois, donc j'avais fait d'abord Loïc Rémy, puis après Cabella en quelques mois en 2014, je crois. Et là, mais tout de suite, je t'assure, ce ciel gris, ces briques. Évidemment, là-bas, c'est une ville minière, une ville de construction navale. Et pour moi, ça ressemblait tellement à ma Bretagne, ça ressemblait tellement à ce que j'adore les villes ouvrières. Tu vois, j'ai quand même eu la chance de vivre à Turin, la ville des ouvriers de la Fiat, une ville vraiment ouvrière. Quand t'as la chance de vivre à Turin, et là je me suis dit, mais Newcastle c'est fait pour moi. Et je peux t'assurer que évidemment c'est pas glamour, hein. Si vous pouvez aller aux Maldives, allez-y, hein. Mais si vous avez même un week-end, 3 jours avec des potes, allez à Newcastle. C'est un stade qui est en pleine ville, en plein centre-ville, 52 000 places, 52 000 supporters, plein à ras-bord, guichet fermé. Et c'est vraiment une ville authentique, une ville d'ailleurs contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais parce que plein de gens m'ont dit, mais Johan, pourquoi tu vas à Newcastle, c'est un trou à rats, c'est quoi ce bordel? Et non, c'est une des villes les plus festives d'Angleterre. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a énormément d'étudiants, et là tu sors le soir, en fait c'est les bars tous les 3 mètres, mais il y a une ambiance, il y a une atmosphère. C'est la ville de Chris Waddle, y a joué, la ville de Gascogne aussi, Gascogne formidable. D'ailleurs, il y a encore plein de traces de Gascogne dans cette ville, la ville de Ginola, qui était un de mes héros d'enfance aussi. Et Newcastle, vraiment, tout respire le foot, tout respire, comment dire, les vrais gens, des gens qui ont beaucoup souffert. Cette ville qui a beaucoup souffert avec, oui, les constructions navales, une ville minière. Il y a ce passé qui est encore là. Dans ma famille aussi, c'était une... je crois que un des membres de la famille de cette dame avait travaillé sur les chantiers navals. Vraiment une ville grise en apparence, mais tellement lumineuse. Et j'adore ces villes, tu vois, où la beauté n'est pas immédiate, mais il faut creuser, il faut chercher, il faut prendre le temps. Et c'est un... Je me rappelle vraiment, j'avais des larmes, évidemment, en partant le dernier jour. J'ai eu des grosses larmes en partant le dernier jour, en prenant le foutu train pour... je crois que j'étais allé à Londres. J'avais fait Newcastle-Londres avant de prendre l'avion à Londres, me semble-t-il. Ouais, très, très, très dur souvenir les dernières heures à Newcastle.
En France, on a un peu de mal à imaginer l'importance du football dans des villes comme Newcastle, des villes un peu ouvrières. Est-ce que tu peux nous décrire cet engouement pour le foot et pour le club qu'ont les habitants de cette ville? Ça se passe comment un jour de match à St James Park?
Ah bah, à Newcastle, vraiment, je ne vous mens pas. Hein. Je fais pas un film, je fais pas un roman, je vous romance pas la situation. C'est vraiment tous les habitants de Newcastle. C'est un amour indicible pour ce club. Donc c'est St James Park déjà. C'est aller voir les images. C'est un stade merveilleux. 52 000 places, 52 000 supporters. C'est guichet fermé à chaque fois. Et ce qui est génial, c'est que le stade est en plein centre-ville. Hein. T'as une petite côte à monter là. Déjà t'es au cœur de la ville. Et là t'as des cars qui viennent de partout. T'as des gens qui viennent de partout. T'as de père en fils, déjà devant le stade, ce que j'adore en Angleterre, t'as la statue de Bobby Robson, qui a été un entraîneur extraordinaire, sélectionneur magnifique, très très humain de l'Angleterre déjà, notamment en 86, en 90, on se rappelle quand Paul Gascoigne avait raté un penalty contre, je crois, l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde en 90, parce qu'en fait il y avait eu Angleterre Argentine en 86 en quart de finale, et en 90 c'était contre l'Allemagne, il perd au tir au but, et on voit beaucoup d'images où on voit vraiment Gascoigne au fond du trou, qui va pas bien, qui est en larmes et tout, et on voit les mots pleins d'amour, les mots d'une humanité absolue, extrême, incroyable, généreux de Bobby Robson. Et là, devant St James Park, il y a cette fabuleuse statue de Bobby Robson, qui est un sélectionneur, un entraîneur, tu vois, le respect, c'est ça que j'adore en Angleterre, le respect des anciens, le respect des vieilles gloires, entre guillemets, qui ne seront jamais vieilles, qui ne jauniront jamais. Et c'est les bars aux alentours qui sont remplis de petits cadres avec des photos de Ginola et malheureusement le drame de Newcastle, c'est quand il y a eu les années extraordinaires de Ginola, Asprilla et tout, ils ont pas réussi à être champions. Une année ils avaient fini deuxième, je crois, après avoir étrié Manchester United à St James Park, un 5-1 ou un 4-1, un match incroyable où Ginola met un but fantastique. Et c'est ça, et c'est vraiment, notamment à côté de ce stade, il y a une boutique où moi j'y allais très très souvent, mais une caverne d'Ali Baba. Alors c'est pas très grand, hein. C'est un monsieur qui tient ça, et là t'as un nombre incalculable de livres de foot, de vidéos de foot, de pochettes de matchs, de fanzines de matchs, et j'y allais très souvent. Je peux dire que j'ai dépensé un nombre incalculable de livres sterling là-dedans, de pounds, mais j'ai adoré, tu vois, le foot, ouais, ça fait partie du cadre social, ça fait partie de la vie familiale, ça fait partie de et moi ce que j'aime, tu vois, c'est que tu vas dans le bar avant et t'as le père, t'as le fils, t'as le grand-père, t'as la tante, t'as l'oncle, c'est un truc incroyable et à vivre. Et aller en Angleterre dès que vous pouvez, moi je rêve d'aller toujours, j'ai toujours pas fait ce stade à Fulham, Craven Cottage, je rêve absolument d'aller, c'est juste à côté de la Tamise et je pense que je vais y aller très bientôt.
Et après avoir passé 6 mois en Angleterre, 7 ans en Italie, quelle différence y a-t-il entre la France et ces deux pays d'un point de vue culture foot? Là, tu parlais justement de cette boutique à St James Park où il y avait encore des reliques, des joueurs d'avant. Quelle différence il y a entre ces deux pays et la France d'un point de vue culture foot, engouement et passion?
Je crois, Abdallah, tout simplement que c'est incomparable. En Angleterre et en Italie, le foot fait partie de la vie. Le foot, c'est la vie. Le foot et le sport, hein. Font partie intégrante de la vie des gens, entrent dans le foyer des gens, tatoués sur leur peau, dans leur cœur, alors qu'en France, voilà, je sais pas si c'est bien, si c'est mal, si c'est mieux, si c'est pas bien, c'est un fait. Le sport n'est pas un mode de vie, n'est pas un état d'esprit. T'as bien vu à l'école aujourd'hui en France, il y a pas 40 000 heures de sport, il y a pas de, tout simplement, je déteste critiquer, je ne sais pas si c'est mieux ou pas bien ou moins bien, mais en tout cas ça ne fait pas partie du mode de vie des gens.
Et dans une interview à Football Stories, tu as dit que Newcastle, c'est l'amour de ta vie, ta plus belle rencontre. Est-ce que c'est plus grand que l'amour que tu as pour Guingamp?
Non, en fait, c'est différent. Mais moi, je crois qu'on a le droit d'aimer plein de choses. Hein. On a le droit d'aimer plein de choses. On a le droit d'aimer différentes villes. On a le droit d'aimer différents clubs. Moi, en plus, j'aime bien les clubs en fonction des gens qui y sont, en fonction de mes coups de cœur, en fonction de des. Alors après, oui, j'aimerais toujours Guingamp à vie. J'aimerais toujours le Milan AC à vie. Après, maintenant, je suis fou amoureux évidemment de Newcastle parce que j'ai aimé, mais vraiment, comment on dit, sur ma peau. J'ai expérimenté sur ma peau cette ville en y dormant jour et nuit pendant 7 mois. J'ai adoré l'Italie. Je sais pas après, qu'est-ce que sera mon futur? Je ne sais pas. La vie n'est jamais ce que l'on pense. La vie a beaucoup plus d'imagination que nous. La vie a beaucoup plus d'imagination que n'importe quel scénariste. La vie ne se passe jamais comme prévu. La vie ne se passe jamais comme on l'espère, comme on l'entend. Donc là, tu vois, je me dis, je suis bien à Paris en ce moment, mais peut-être que je repartirai encore. Je laisse la vie écrire mon roman avec sa belle encre.
Et là, en ce moment, ta vie, on va parler du présent, c'est l'équipe, la chaîne L'Équipe. Comme beaucoup de gens, moi, je t'ai découvert dans L'Équipe du soir, donc c'est l'émission de débrief sur la chaîne L'Équipe animée par Olivier Ménard. Et je t'ai découvert gesticulant, passionné, gentil, romantique, enjoué. Et on peut dire que tu détonnes parmi les journalistes sportifs et dans l'émission, où il y a souvent des gros clashs. T'es un peu à part, j'ai l'impression.
Non, pas du tout, mais... nous, la chaîne L'Équipe, forcément, on a beaucoup beaucoup moins d'argent que les autres chaînes, donc on doit faire autrement, on doit se débrouiller, et donc il y a eu ce concept qui est né, voilà, de commenter des matchs sans images, donc les téléspectateurs, pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, donc des gens qui mettent la chaîne L'Équipe, la 21, le mardi soir en Champions League, le mercredi soir en Champions League, le dimanche soir pour la Ligue 1, n'ont pas les images, donc en fait ils nous regardent, moi et un de mes collègues, commenter le match, mais ils ont pas les images, et vraiment on a vraiment une super bande, une super équipe, un super état d'esprit. Tu vois, il y a Régis Brouard qui nous a rejoint cette saison, l'entraîneur du Red Star, qui va faire remonter le Red Star en Ligue 2, qui est d'une gentillesse folle. Il y a Didier Roustan, avec qui je suis parti en Argentine et au Chili, des aventures extraordinaires. Mais Saoud Ben Terki, en maître de cérémonie, à côté de moi, il y a Julien Aliane, où il y a Benoît Cosset, où il y a Raphaël Sebaoun, où il y a Candice Roland. Et on vit un truc incroyable de bonheur, d'insouciance, d'inconscience, de romantisme. On se prend pas la tête. Alors évidemment, le lendemain, on regarde les audiences. Hein. Évidemment, le mail vers midi, on le regarde. Et puis, on est déçu quand ça marche pas. On est super heureux quand ça marche. Et tu vois, on a l'impression... Je sais que je vis un truc unique. Je sais que n'importe quoi de ce que je ferais... Excuse-moi, c'est pas très français. Je perds mon latin. Dans le futur, à la télé... Ça ne pourra pas, je pense, être aussi joli que ce que l'on vit là depuis 2 ans, parce que c'est totalement, comme tu dis, on est un peu décalé. On se prend pas la tête, on se prend pas le chou, on n'a pas la pression, on nous laisse faire œuvrer en totale liberté. On vit des moments incroyables, et moi je me dis, les gens, franchement, qui le dimanche soir, le mardi soir, le mercredi soir, mettent la 21 pour nous regarder, alors qu'ils pourraient regarder les matchs sur streaming. Ils pourraient tout simplement avoir Beansport, ils pourraient avoir Canal+, ils pourraient avoir SFR, ils pourraient aller dans un bar, ils pourraient aller chez leurs potes. Franchement, les gens qui mettent la 21 le dimanche soir, le mardi et le mercredi, c'est que vraiment, ils apprécient le truc. Donc je me dis, offrons-leur de la bonne humeur, offrons-leur des sourires, pas de clash, on se fait pas la gueule, on va pas encore en plus leur faire la gueule. Déjà, ils ont pas l'image. Ils ont pas l'image, on va pas en plus leur faire la gueule. Donc le respect infini, la moindre des choses, c'est qu'on est de bonne humeur, on a de l'allant, on a de l'envie, on a du romantisme, on leur offre tout ce qu'on a au plus profond de nos tripes et de notre âme, et on vit un truc de fou. Hein. Et je me dis même maintenant, ça, je regretterais le jour où je quitterais cette petite cabine, où on a quand même fait venir Teddy Riner, où on a fait venir Grégoire Margoton, où on vit des moments incroyables. Et moi je me dis, ouais, je suis quand même les yeux du match, des gens qui regardent le match, puisque les gens suivent le match à travers mes yeux, à travers mes émotions sur mon visage.
Et ta gestuelle aussi.
À travers mes mots, ouais, parce que t'as vu, même là, j'ai envie de me lever. Maintenant, là, il faut, chers téléspectateurs, auditeurs, là, je suis en train de commenter assis, hein, mais j'ai envie de me lever. Et le truc, c'est que, et on a en plus, c'est vrai que ce programme-là, il est un petit peu béni, parce qu'on a énormément de chance d'avoir des scénarios de fou. Tu vois, on pourrait avoir des matchs où on s'ennuie. Là, on a quand même eu la remontada l'an passé, on a eu le parcours extraordinaire de Monaco, on a eu le parcours, là, cette année, on voit des matchs à n'en plus finir, extraordinaire entre Liverpool, la Roma, Barça, enfin incroyable. Et surtout, c'est que ce que j'adore, c'est le travail de préparation.
Là, en ce moment, comment tu prépares un match? Comment ça se passe?
Là, je suis comme un fada. Là, je passe.
Est-ce que t'as toujours toutes ces fiches là, ouais, comme dans ouais, l'équipe du ouais. soir, toujours?
Là, par exemple, là, donc l'émission est enregistrée, donc je ne sais pas quand elle passera. Mais là, je viens d'apprendre que donc dans quelques jours, là, on est lundi matin, lundi midi, et donc jeudi matin, nous allons enregistrer. un match mélancolique, nostalgique. Nous allons enregistrer, nous allons commenter dans les conditions du direct le Angleterre-Argentine de 86, le fameux quart de finale, le match de Maradona, puisque Maradona met un but incroyable de la main qui ouvre le score. Et 4 minutes plus tard, il dribble 4, 5, 6 joueurs et il met l'un des buts du siècle. Et donc là, mes chefs sont venus me voir en disant « Johan, tu commenteras avec Benoît Cosset, tu vas recommenter dans les conditions du direct. » Et là, je peux t'assurer, Abdallah, ça fait 4 jours, je suis à bloc, je suis à fond, donc j'ai déjà regardé le match. J'ai regardé le match deux fois déjà. J'ai récupéré deux bouquins, deux livres de Diego Maradona qui racontent de manière extraordinaire sa vie, la Coupe du Monde 86, d'une manière incroyable. Je suis allé aux archives de la DOC pour récupérer 50 000 documentations sur ce match. Et t'imagines la chance que je vais avoir. Donc là, on enregistre pour un match qui sera diffusé vraiment le soir à l'antenne, en prime time. Et t'imagines, j'ai la chance, j'avais 8 ans à l'époque, de recommenter Angleterre, Argentine 86. J'ai toujours dit que mon fils s'appellerait Diego, d'ailleurs. Quand j'aurai un fils, il s'appellera Diego. J'espère que la maman sera d'accord. Et là, je vais commenter l'un des buts du siècle de Diego Maradona, où il dribble 1, 2, 3, 4 joueurs. Là, on est à 3 jours du match. Je ne sais toujours pas comment je vais le commenter. Ça viendra comme ça viendra. Mais c'est pour te dire que, tu vois, si j'étais sur TF1, si j'étais sur Canal+, je pourrais pas vivre ça. Parce qu'il y a des commentateurs qui sont 1000 fois meilleurs que moi, les Grégoire Margoton, et là on a la chance à l'équipe 21 de pouvoir vivre ça. Et d'ailleurs, pendant la Coupe du Monde de foot, nous allons évidemment aussi tous les matchs qui ne seront pas sur TF1, notamment dans la phase de groupe, nous allons les commenter également sans images.
J'ai l'impression que ça marche pas, parce que moi, je parle de mon cas perso. J'ai un ami qui a ces chaînes là et qui me dit franchement, je préfère regarder sur l'équipe avec Yohan, il me rend complètement fou quand il bouge, quand il prend le ballon, il essaye de retourner, c'est incroyable, il adore ça. Et j'ai l'impression que ça plaît au public, ce côté un peu enjoué qu'on peut retrouver à la radio, mais là c'est avec une image et tu donnes de ta personne. Et c'est vrai que quand tu commentes, j'ai l'impression que t'es journaliste, mais que t'as presque un rôle de consultant, un peu comme Omar Da Fonseca sur Bein, mais encore plus excentrique.
J'adore. Non, Omar Da Fonseca, c'est merveilleux, mais la chance que l'on a, c'est qu'on est là pour transmettre aux gens. On est là vraiment dans un rôle de un petit peu en pivot entre le match et les gens. On est là la star, ça sera évidemment le match. Moi, je suis rien. Et là, pour préparer le match Angleterre-Argentine, nous on a reçu le match en fait sans les commentaires, mais j'ai réussi avec un système à double écran à avoir les commentaires de Victor Hugo Morales, commentateur mythique qui a fait ces commentaires extraordinaires. Donc j'ai vraiment récupéré tous son commentaire, mais le mec, c'est un génie. Mais moi, je suis rien du tout. Le gars, il est pendant une heure et demie, il te commande ça avec une grinta, avec une hargne. Tu vois, c'est du tango. Il y a c'est chaloupé, c'est amoureux, c'est sexuel. Il te raconte ça de manière extraordinaire. Et nous, encore, je le dis toujours, on n'est absolument pas meilleur que les autres. On n'est surtout pas meilleur que les autres. On n'est pas au-dessus des autres. Après, c'est juste le concept qui fait que forcément, on est différent. Mais nous, évidemment, que regardez Bein Sport et Canal+ quand il y a des images. Nous, on est là en complément. On est là même un petit peu d'utilité publique pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se payer l'abonnement à Canal et à Bein Sport. Eux, ils font magnifiquement leur match. Par exemple, lorsqu'il y a eu Real PSG, ils avaient énormément d'envoyés spéciaux. Bein Sport, ils étaient très nombreux sur place. Ils ont fait un carton d'audience et nous aussi, on a fait un carton d'audience. On a fait 410 000 téléspectateurs de moyenne à l'aller comme au retour, ce qui est faramineux pour nous. T'imagines, on avait fait 410 000 de moyenne à l'aller pour le Real PSG et 410 000 au retour. Et tu vois, et on ne se marche pas sur les pieds. Et ce soir-là, il y a des gens qui ont écouté la radio aussi, qui ont écouté RTL, Europe 1, RMC, d'autres qui ont regardé le match avec des images. Et après, ce qui me touche beaucoup, c'est que je vois, j'ai l'impression que c'est quand même assez fréquent, des gens qui ont le double écran, donc qui regardent le match évidemment avec image Canal ou Bein. Et nous, ils nous ont sur l'ordinateur, tu vois, la chaîne L'Équipe. Et nous, c'est le plus beau des cadeaux, c'est le plus beau des respects. Et ça nous donne une force en nous absolument incroyable. Mais encore une fois, on n'est absolument pas meilleur que les autres. Sauf que nous, on n'a pas les images. Donc la télé, c'est les images. Donc nous, on doit compenser par énormément de choses et surtout par une bonne humeur. Et un jour, le premier jour, on me dit « Johan, tu vas commenter un match. » C'est un match de Coupe d'Écosse.
Et t'as dit oui direct aussi.
Et je dis direct bien. Enfin, c'est alors que tu vois, c'est un truc de fou. Il y a un collègue, Aurélien Delfos, qui m'a dit la plus belle des choses, peut-être le plus beau des conseils. Alors je lui dis mais Aurélien, comment je vais faire et tout, c'est incroyable. Comment
tu paniques un peu, c'est ça?
Ouais, je paniquais totalement. Ouais. Et en étant tout à la fois un rêve, je paniquais. Et il m'a dit Johan, cette phrase la plus belle du monde. Il m'a dit Johan, pendant 39 ans. Tu as écouté du foot, tu as regardé du foot, on t'a, grâce à des gens t'ont transmis l'amour du foot, des gens t'ont nourri de foot, t'ont alimenté de foot, et maintenant, c'est à toi, modestement, t'as l'âge maintenant, hein, 39 ans, 40 ans, c'est à toi maintenant de transmettre tout ce qu'on t'a appris pendant 40 ans, tout ce que l'amour du foot qu'on t'a transmis, qu'on t'a donné, qu'on t'a inoculé, le virus du foot maintenant, essaye de le tant que tu peux, de le transmettre à ton tour. Et c'est le fameux mot que je préfère au monde, hein, transmission. Mmh. Et c'est ce que j'essaye modestement de. Moi, j'espère que voilà, il y a un petit jeune peut-être qui nous regarde un soir et qui se dit, mais ce fada-là, il me donne envie de faire du foot, de commenter du foot, de devenir journaliste. Et si ça arrive, ce serait merveilleux.
Et justement, tu parlais des commentaires de Victor Morales. Est-ce que ces commentaires que tu as pu entendre en Italie, en Angleterre, ou ceux de Victor Morales qui sont devenus légendaires, tu t'es imprégné de ces commentaires-là pour commenter toi-même?
Moi, je les trouve extraordinaires. Moi, je pense que je suis très, 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 très loin d'eux. Ils sont en Italie. Il y a un journaliste, il y a un duo extraordinaire en Italie, Fabio Caressa et Giuseppe Bergomi, ancien extraordinaire joueur de l'Inter de l'Italie, champion du monde en 82. Et je me rappelle pendant la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie, donc ils commentaient les matchs pour Sky Sport Italia de l'Italie. Mais il y a eu un amour pour eux. Il y avait une grinta dans leurs commentaires. Il y avait une folie. Il y avait une envie. Certes, aidé par les matchs, hein, mais ils étaient à la hauteur. Moi, j'adore, c'est quand les commentateurs sont à la hauteur du match. Et là, je vois pareil, il y a un commentateur anglais de Sky Sport Angleterre, Martin Taylor, qui est extraordinaire, qui a commenté par exemple le sacre de Manchester City en 2012 à la dernière seconde. Moi, je trouve qu'il y a des commentateurs extraordinaires partout. Tu te rappelles de l'Islandais là,
oui,
pendant l'Euro 2016?
Oui, effectivement.
Et parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a différentes manières de commenter. Moi, c'est sûr que j'adore un petit peu les passionnés absolus côté latin, ouais. Mais j'ai un respect infini pour tous les commentateurs de voilà, Grégoire Margoton, Jeannot Rességui, qui est fantastique sur RMC, et nous à notre petite échelle sur TF1, sur la chaîne L'Équipe, je fais un lapsus. Non, je suis pas sur TF1, sur la chaîne L'Équipe, on vit un rêve, et c'est sûr que moi j'adore, hein, là je passe un temps fini sur YouTube, tu vois, quand t'es tranquille le soir avant de t'endormir, je me refais des commentaires de match. Mais tu vois là franchement j'ai été épaté, hein. J'ai donc il y a quelques jours, je me suis fait la finale de la 80, le quart de finale de Coupe du Monde 86. C'est un des matchs du siècle, Angleterre-Argentine. Victor Hugo Morales est extraordinaire et exceptionnel. Il n'est pas extraordinaire sur deux buts, hein. Il est extraordinaire sur tout le match, même quand il ne se passe rien, même quand le ballon est en touche. Il a sa grinta, il a sa vitesse, et la rapidité. J'adore la rapidité, et je me demande si je ne suis pas quand même né à Naples, parce que tout le monde me dit, mais Yuan, pourquoi tu parles aussi vite? Blablabla. J'en sais rien, moi, là, le ballon sur le côté gauche, accélération, et je ne sais pas, ça vient comme ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un respect des anciens, un respect de ceux qui étaient là avant nous. Et tu vois, quand j'étais petit, le dimanche soir notamment, il y avait Stade 2. Et moi, j'avais 8 ans et tout. Et est-ce que t'es beaucoup plus jeune que moi, hein. T'as 28 ans, Abdallah, c'est ça,
ouais.
T'as peut-être pas connu ça. Mais dans les années 80, on était jeune, t'avais Stade 2 qui était vraiment la messe le dimanche soir. Et c'était donc, t'avais 7-8 journalistes qui étaient autour d'une table. Et il y avait que de la rigolade. Mais ils rigolaient. Et moi, je me suis dit, mais ils passent leur vie à rire. C'est fantastique. Il y avait Daniel Casal qui faisait que des jeux de mots. Il y avait Richard Diot. Il y avait Robert Chapat. Il y avait, mais c'était incroyable. Peut-être Jean-Michel Leliot. Et franchement, et je voyais ces gars-là, ils rigolaient en faisant leur reportage, en annonçant leur sujet, en annonçant, tu sais, à l'époque, on montrait les résultats de waterpolo. Et je me suis dit, ces gens-là, ils rigolent. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu, même à la grande époque de téléfoot aussi, dans les années 80, 90. Mais les mecs, ils étaient bidonnés de rire, quoi. Et je me suis dit, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je déteste les clashs. Je déteste des frictions, je déteste des tensions, je ne supporte pas ça. Encore plus à la télé, parce que je pense que c'est le dernier truc qu'attendent les gens. Et t'imagines, j'ai juste la chance, en fait, d'être un petit peu dans cette suite-là, mais hyper modestement, parce que voilà, les mecs de Stade 2 dans les années 80, je peux t'assurer, c'était des génies.
Et tu disais que t'aimais pas les clashs, l'énervement, surtout à la télé. Et moi, une fois, j'étais surpris un peu. Je me rappelle, une fois, je regardais L'Équipe du soir, et je crois que c'est la seule fois où je t'ai vu perdre un petit peu ton calme.
Ah bon?
Ouais, je crois que c'était tu débattais dans l'émission, et je crois que le président entre guillemets de L'Équipe du soir, c'était Patrick Lemoine, et il y a eu un échange, en fait, à chaque fois que tu parlais, il te coupait la parole.
Non, mais il y a aucun souci, je t'assure.
Non, je sais bien, et c'est juste qu'à un moment tu lui as dit, vous êtes plus le directeur de la rédaction de L'Équipe.
Non, mais tu vois,
juste après ça s'est vous êtes
réconcilié. Oui, très très bien. Et puis Patrick Lemoine, encore une fois, qui a été un immense journaliste de L'Équipe. Qui a fait des reportages. D'ailleurs, il était la coupe. C'est marrant parce que tu me parles de lui, puisque là, en révisant le match Angleterre-Argentine que je vais commenter dans les conditions du direct, Patrick Lemoine a écrit d'ailleurs un papier sur Maradona, je crois, et le titre c'était Je t'aime Maradona. Mais voilà, ce qui est bien aussi à L'Équipe du soir, dans les émissions débat, c'est que on est différentes personnalités, on est différents caractères, différents parcours de vie, différentes sensibilités, différentes émotions. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, il y en a qui sont voilà, donc là ce soir-là, je me rappelle effectivement de cette émission, voilà, parfois on peut s'accrocher entre guillemets. Alors moi, ça c'est défenseur que j'aime pas, hein. Mais là avec Patrick il y avait absolument aucun problème. D'ailleurs maintenant il fait plus partie de l'émission, mais il a été vraiment un membre éminent et très très important de l'équipe du soir pendant des années. C'est ça, c'est juste des différences de caractère, et c'est bien que toutes les sensibilités soient représentées, et l'équipe du soir c'est bien parce qu'il y a des anciens joueurs de foot, il y a des gens un peu plus jeunes, un peu plus âgés, là par exemple tu vois l'équipe d'Estelle, j'adore faire l'équipe d'Estelle, il y a Dominique Grimaud, tu vois, j'adore Dominique Grimaud c'est mon enfance aussi, d'ailleurs j'ai appris il y a une semaine que son fils a le même âge que moi, on est né à 7 jours d'écart, et Dominique Grimaud, j'adore être à côté de Dominique Grimaud parce que tu vois c'est on a le même amour du sport, mais on a deux, tu vois, c'est des émotions différentes, mais on s'adore.
Il a une vraie voix aussi.
Ouais, et je l'adore. Il est hyper adorable, hyper gentil, hyper courtois. On s'amuse beaucoup. Il y a une certaine poésie. Et moi, j'aime bien, tu vois, quand on rigole, quand on échange, quand on s'amuse, quand on kiffe ensemble, et quand on rigole vraiment ensemble.
T'as beaucoup parlé de transmission en disant que c'était un mot très important pour toi. Si tu devais donner un conseil à un jeune ou une jeune qui souhaite devenir journaliste sportif, ce serait lequel ?
Alors absolument, ne pas avoir peur de rien, ne rien s'interdire. Il y a un an, je suis allé à l'école de journalisme de Lille, où ça a été fantastique, où depuis un an maintenant, il y a une classe 100% journalisme sportif. Donc j'avais 15 étudiants devant moi, des gens adorables, des gens fantastiques. Et donc l'un des directeurs de l'école me dit Johan, est-ce que tu veux passer une journée avec eux ? Donc je passe une journée avec eux, et le matin j'arrive, et moi je voulais pas trop raconter ma vie et tout, voilà. Et je me suis dit voilà, on va commencer exercice tout de suite. Vous êtes 15, on va se découper en 5 groupes de 3, puisque toute votre vie on va vous demander l'impossible. Vos rédacteurs en chef vous demanderont l'impossible, vous demanderez d'avoir des interviews impossibles, vous demanderez de faire des reportages impossibles. Eh bien, je vais vous demander on va 5 groupes de 3, et vous allez devoir, vous avez un mois pour essayer de me ramener une interview. Je vous donne 5 joueurs. Donc il y a un groupe, il faut qu'il ait Verratti, un groupe il faut qu'il ait Griezmann, un groupe il faut qu'il ait Pogba, un groupe il faut qu'il ait Benzema, et un groupe il faut qu'il ait Ribéry, et je crois qu'il y avait du Loris aussi. Et donc des gens qui ne parlent quasiment pas, des gens qui s'expriment très peu, et je lui dis voilà, vous avez un mois. Franchement ça me paraît impossible, puisque déjà ces joueurs-là parlent très très peu. Après je savais très bien que Loris, peut-être qu'il y avait une possibilité pour Loris. Et ce qu'ils ont, tu vois, Benzema il parle pas, Ribéry il parle pas, Pogba c'est compliqué, Griezmann aussi. Je sais pas si avec Griezmann, Verratti avec le PSG c'est compliqué. Et je leur ai dit, si vous me ramenez un de ces 5, et ben le groupe de 3 qui me ramène un de ces champions, je vous offre 3 billets pour Old Trafford, un match de Serie A. On verra encore, parce que je sais pas encore quel match ça pourra être. Mais voilà, vous avez un mois, vous me ramenez, et puis vous allez à Old Trafford. Je vous offre 3 billets pour Old Trafford. Et tu rencontres, et là j'ai vu leur motivation, tu vois, des jeunes, hein, vraiment peut-être 19 ans, 20 ans, 21 ans. Et là j'ai vu des jeunes se dépouiller pendant un mois. Et il y a un groupe qui a réussi à avoir Loris. Donc il y a un groupe, Loris a été adorable. Ils sont passés par le papa. Ils ont été au centre d'entraînement. Ils sont allés au centre d'entraînement de Tottenham. Ils ont réussi à avoir Loris. Magnifique interview d'ailleurs avec une caméra. Loris a été formidable. Loris a été extraordinairement gentil avec eux. Et je leur ai offert en récompense Old Trafford, parce que je me suis dit, ah, mission impossible, récompense aussi magnifique. Et ces trois-là sont allés après voir un match de Première Ligue contre Swansea. Et d'ailleurs, il y en a un qui était fabuleux, Nicolas Colubert, qui après a pu... j'en ai parlé à mes chefs, à l'équipe.fr, en disant, voilà, Nicolas Colubert est un mec formidable, un jeune étudiant plein d'envie, plein de talent, plein de niaque. Et il a pu passer quelques mois à l'équipe.fr, au sein du groupe L'Équipe. Voilà, je dirais aux jeunes... tenter l'impossible, si vous voulez avoir une interview, harceler les gens, passer 75 000 coups de fil, envoyer 75 000 SMS, envoyer 75 000 mails, et à la fin peut-être que le gars dirait oui. Et surtout, c'est croyez en vos rêves, absolument rien n'est impossible. Rêver c'est gratis, ça coûte rien de rêver. Et après, ben si tu passes des coups de fil, si t'es sympa, si t'as un bon relationnel, et ben tout est possible.
Bah c'est un très beau message, je partage entièrement tout ce que tu viens de dire. Et donc là on arrive à la fin de cette interview, Johan. Et je voulais me faire un petit kiff. Donc, t'as passé 7 ans en Italie. Et j'aimerais que tu dises aux auditeurs, Banquette est le meilleur podcast du monde en italien.
Ah, alors Banquette, la difficile à retenir. Banquette, et la quoi, c'est quoi ta phrase ?
Et le meilleur podcast du monde.
Ah, d'accord. Alors, vorrei dire a tutti assolutamente che questo uomo che è davanti a me è assolutamente fantastico, è un grandissimo giornalista, è un giornalista favoloso che ha la passione, che ha la voglia, che ha la passione di questo mestiere. E Abdallah, tu sei fantastico, tu sei il Maradona dei commentatori, dei giornalisti. E penso che la tua vita sarà bellissima, che la tua vita sarà favolosa. E grazie per questo momento, grazie per questo favoloso momento. Sono molto molto felice di aver vissuto questo momento con te, questa ora con te, e vorrei ti ringraziare con tutto il mio cuore. E sono sicuro che il tuo futuro sarà bellissimo e sarà straordinario.
Bon, j'ai pas tout compris, mais je pense avoir compris l'idée générale. En tout cas, merci beaucoup, Yoann Rieu. Quelle est la suite pour toi? L'équipe, la chaîne L'Équipe, L'Équipe du Soir, l'équipe,
oui,
d'Estelle,
alors la coupe
les commentaires.
Du monde, qui arrive, hein, qui arrive dans les prochains jours. Ça va être extraordinaire, la Coupe du Monde. Et donc, on va commenter plein de matchs, comme l'on fait sur la Ligue 1, la Champions League. Et après, le futur, ben voilà. Hein. En plus, je suis un fils de marin-pêcheur. Donc, en général, un fils de marin-pêcheur, tu sais, il aime naviguer, il aime voguer.
Advienne que pourra, quoi.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais très bien, Abdallah, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et donc, ce qui est beau, c'est que surtout, en tout cas, je ne rêve à la limite plus de rien, puisque j'ai déjà été très très chanceux, je suis très 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 chanceux, et donc voilà, l'avenir va s'écrire avec une encre que je ne connais pas encore, si elle sera indélébile ou pas.
Bah écoute, on va te suivre sur la chaîne L'Équipe, te regarder, commenter.
Et merci Abdallah encore, hein, merci,
bah, merci
beaucoup,
à toi,
t'es vraiment
surtout
adorable, t'as 28 ans, t'es un génie, t'es super, t'es absolument incroyable,
bah, merci
et merci
beaucoup
pour ton humanité.
Bah merci beaucoup, à bientôt Yoann.
Merci beaucoup.
Ciao. Merci à Yoann Rieu d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez réagir à cet épisode, ça se passe sur nos réseaux, Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Comme toujours, merci à tous les banquettistes pour votre soutien et votre engouement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle table ronde. Ciao !